Inclinons nos têtes juste un moment. Seigneur, nous sommes à nouveau réunis pour cette réunion et nous pensons au temps ancien où tous venaient à Silo pour les bénédictions du Seigneur. Et maintenant, ce soir, nous sommes assemblés ici pour écouter ta parole. Comme nous l'avons étudié dans certaines portions des Écritures, que l'agneau était le seul qui pouvait ouvrir les sceaux ou les libérer. Et nous prions que ce soir, en considérant ce glorieux sixième sceau, nous prions, Père Céleste, que l'agneau l'ouvre pour nous ce soir, parce que nous sommes ici pour le comprendre. Et aucun homme sur la terre ou dans le ciel n'était suffisant. Seul l'agneau fut trouvé suffisant. Donc, celui qui est tout suffisant vienne et ouvre le sceau pour nous ce soir, afin que nous puissions regarder au-delà du rideau du temps. Ça nous aiderait, nous croyons, Père, dans ces jours de grandes ténèbres et de péchés dans lesquels nous vivons. Cela nous aidera et nous donnera du courage. Nous avons confiance maintenant d'avoir trouvé grâce à tes yeux. Nous nous en remettons à toi, à la parole, à toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonsoir les amis. C'est un privilège d'être de nouveau ici ce soir. D'être au service du Seigneur. Je suis un peu en retard. J'ai dû aller voir un cas urgent, un homme mourant, un membre de cette église. Sa mère vient ici. Il disait que l'homme était en train de mourir. J'y suis allé. Ce n'était plus que l'ombre d'un homme sur son lit, un homme à peu près de mon âge. Et juste après quelques instants, je l'ai vu se lever et donner gloire à Dieu. Ainsi, Dieu, si nous voulons confesser nos péchés et faire ce qui est juste, demander la miséricorde et l'invoquer, Dieu veut et il attend de nous l'accorder. Je sais qu'il fait chaud ici ce soir. Je crois que le chauffage est éteint. J'ai remarqué hier soir, ou aujourd'hui, c'est mon septième jour dans une pièce sans lumière, simplement la lumière électrique, voyez, étudiant et priant que Dieu ouvre ses sceaux. Il y en a beaucoup qui ont écrit pour apporter des questions hier soir. Pas tellement de questions, mais ils voulaient avoir un service de guérison de toute manière, de rester un jour supplémentaire pour avoir la guérison lundi. En fait, je pourrais le faire si c'est la volonté des gens que je le fasse. Alors, pensez-y et faites-le-moi savoir si vous voulez simplement rester et prier pour les malades. J'avais prévu ce temps qui soit consacré complètement pour les sceaux. C'est pour ça que je me suis tenu à l'écart. Ainsi, vous pouvez y penser, prier et me le faire savoir. Alors, si le Seigneur le veut, je pourrais. Mon prochain rendez-vous est à Albuquerque, au Nouveau-Mexique, dans quelques jours, et il faut encore que je rencontre la maison pour m'occuper d'autres affaires. Il y a une autre convention qui est prête là, en Arizona. Si c'est la volonté du Seigneur, priez pour cela, je ferai la même chose, et nous en saurons plus un peu plus tard. Maintenant, vous mettez à parler de maladie, et la voilà qui vient. Cette dame assise là-bas, si quelque chose ne la secourt pas, elle ne pourra bientôt plus rester là. Ainsi, nous prions simplement que Dieu, c'est pour ça que vous êtes ici. Le Saint-Esprit connaît toutes choses, vous savez, mais j'ai essayé de consacrer ce temps pour ces sceaux, parce que nous nous sommes réunis pour cela. Combien y a-t-il de malades qui sont venus de toute façon pour qu'on prie pour eux? Laissez-moi voir votre main partout. Oh là là, Combien pensent que ce serait juste la volonté du Seigneur d'avoir un service de guérison lundi soir pour prier pour les malades? Aimeriez-vous faire cela? Vous pourriez venir? Eh bien, si le Seigneur le veut, nous le ferons. Nous aurons un service de prière pour les malades lundi soir. Nous prierons pour eux. Maintenant, j'espère que ça n'interrompt pas le groupe avec lequel je viens d'Arizona. Frère Norman, où est-il? Est-ce que ça dérange le programme, Frère Norman? Frère Fred et tous les autres, est-ce que tout va bien? Ok. Eh bien, alors si le Seigneur le veut, lundi soir, nous prierons pour les malades. Une soirée mise à part pour prier pour les malades. À ce moment-là, nous aurons terminé les sceaux. Le Seigneur ouvre simplement ses sceaux et ensuite nous prierons pour les malades lundi soir. Oh, j'ai été vraiment réjoui de voir. C'était tellement formidable de servir le Seigneur. Avez-vous apprécié ces sceaux? Maintenant, en parlant du sixième sceau, cela nous amène maintenant du 12e verset du chapitre 6 au 17e. C'est l'un des sceaux les plus longs parce qu'il s'y passe pas mal de choses là.
Et
maintenant, revoyons un petit peu ce que nous avons vu hier soir. Pour avoir un arrière-plan, et je voudrais encore dire quelque chose. J'ai trouvé dans cette boîte 4 ou 5 choses importantes pour moi. On m'a dit, et je veux vraiment m'excuser. Est-ce que la bande s'enregistre? Je veux m'excuser devant mes frères prédicateurs et vous les gens ici. Quand je parlais hier soir d'Élie, à l'heure où il pensait qu'il était le seul à être dans l'enlèvement ou à être sauvé, j'ai dit 700 au lieu de 7000, n'est-ce pas vrai? Eh bien, je suis vraiment désolé. Je sais mieux que ça. Simplement, ma langue a fourché parce que je savais bien qu'il s'agissait de 7000. Ce fut simplement une erreur de langage. Mais je vous remercie, ça montre que vous êtes attentif à ce que je dis. Bien sûr, c'est 7000, j'ai 2 ou 3 notes. Mais Frère Branham, je crois que vous vous êtes trompé. N'était-ce pas 7000 au lieu de 700? Je pensais. Bien sûr, j'ai pas dit 700. Et alors, première chose, j'ai pris une autre note. Frère Branham, je crois que vous avez dit 700. Et une personne dit, Frère Branham, est-ce que c'est une vision spirituelle montrant un type? Mais cela énerve les gens, cela met vraiment au bord de leur chaise quand ils pensent à ces choses. C'est compréhensible, et moi aussi. Quelque chose est arrivé lorsque le sceau fut révélé. Je dois absolument sortir, vous voyez, sortir un peu dans la cour tout un temps. Ça m'avait complètement coupé le souffle. Vous voyez, quelle tension, oh là là. Et autre chose, mais c'est que vous vous reposez sur ce que je dis, et Dieu me rendra responsable de ce que je vous dis. C'est pourquoi je dois absolument être sûr, aussi sûr qu'il est possible, de ces choses, parce que c'est un temps extraordinaire dans lequel nous vivons. Je pense au service de guérison de lundi soir. Ça ne dérangerait pas les plans, Frère Neville? Notre précieux Frère Neville? Il n'y en a qu'un. Il n'y en a qu'un comme lui. C'était vraiment un de mes meilleurs amis. C'est moi qui vous le dis. Maintenant, le tabernacle est construit avec les salles d'école du dimanche et tout le reste, et tout est en ordre ici. Et certains ici qui sont à Jeffersonville qui veulent venir à l'église, vous avez un bel endroit pour venir maintenant, une salle pour l'école du dimanche avec des hommes compétents pour vous enseigner, et la classe des adultes ici, Frère Neville, un vrai pasteur. Je ne dis pas ça pour lui jeter des fleurs, mais je préfère lui donner une petite rose maintenant qu'une couronne entière après son départ. Frère Neville, je le connais depuis mon enfance et il n'a pas changé. C'est toujours Orman Neville, comme il a toujours été. Je me rappelle avoir visité, il a même eu la bonté de me prêter sa chaire lorsqu'il était un prédicateur méthodiste, ici dans la ville. et nous avions une belle assemblée là-bas à Clarksville. Je crois que c'était à Howard Park, l'église méthodiste de Harrison Avenue. C'est là qu'il a dû vous trouver, sœur Neville, parce qu'elle aussi était méthodiste. Et je suis revenu à l'église et j'ai dit, c'est l'un des hommes les meilleurs que je connaisse et un de ces jours, je vais le baptiser au nom du Seigneur Jésus. Et c'est ce qui est arrivé. Il est ici et maintenant, c'est mon meilleur ami qui se tient toujours à mon côté. C'est un homme si honorable et respectable. Il s'est toujours tenu près de moi, aussi proche que possible. Quoi que je dise, il reste avec cela, il tient ferme. Et même lorsqu'il vint pour la première fois, qu'il ne comprenait pas encore le message, il le croyait, il s'y tenait. Ça, c'est de l'honneur, c'est du respect. Un tel frère, je ne pourrais jamais dire assez en sa faveur. Maintenant, que le Seigneur le bénisse. Maintenant, une petite prévue de ce cinquième saut hier soir. Nous ne retournerons pas jusqu'au début ce soir, mais seulement jusqu'au point nécessaire à la compréhension du cinquième saut. Nous voyons maintenant que l'Antichrist chevauchait et pour se constituer en trois puissances qui se groupèrent en une quatrième pour monter le cheval de couleur pâle pour entrer dans l'abîme sans fond de la perdition dont il était sorti. Et ensuite, nous voyons que les Écritures disent que lorsque l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de Dieu élèvera un étendard contre lui. Et nous avons vu cela parfaitement confirmé dans la parole hier soir. Car il y avait quatre bêtes qui répondaient chaque fois que ce cavalier chevauchait. Et il chevauchait chaque fois un cheval différent, un cheval blanc, et puis un cheval rouge, puis un cheval noir, et enfin un cheval pâle. Nous avons découvert ces couleurs, ce qu'elles étaient, ce qu'elles ont fait. Et nous avons ensuite ramené tout cela aux âges de l'Église et vu exactement ce que cela faisait parfaitement. Ainsi, vous voyez, lorsque les différents passages de la parole de Dieu se rejoignent ensemble, ça signifie que c'est correct. Voyez. Je crois que tous ceux qui se connectent avec la parole de Dieu, c'est toujours Amen. Une personne dit qu'elle a une vision et elle sait que c'est le Seigneur qui l'a donnée parce qu'elle est venue avec une grande puissance. Eh bien, la vision peut être très bien, mais si elle n'est pas avec la parole et qu'elle est contraire à la parole, alors c'est pas juste. Il se pourrait que quelques frères ou sœurs mormons soient présents ou bien reçoivent ces bandes. Et je ne voudrais pas dire que si vous faisiez la connaissance des mormons, vous verriez que ce sont des gens très bien, un très bon type de personnes, et leur prophète Joseph Smith, que les méthodistes ont tué ici en Illinois lors d'un déplacement. Cet homme bien, et dans sa vision, je ne doute pas le moins du monde qu'il a eu cette vision, je crois qu'il était sincère, mais la vision qu'il a eue était contraire aux Écritures. Par conséquent, il leur fallait une Bible des Mormons pour arriver à son but. Vous voyez, pour moi, ça, c'est une erreur. Je vous le dis, c'est la parole. Un jour, un ministre est venu ici d'un pays étranger. Je l'avais vu, il voyageait en voiture avec une dame. Et ils sont venus à une réunion et j'ai découvert qu'ils avaient roulé pendant deux ou trois jours ensemble pour venir à cette réunion. Et la femme avait été mariée trois ou quatre fois. Et ce ministre est venu dans le hall de l'hôtel où j'étais. Je lui ai serré la main. Et je me suis mis à lui parler, je lui ai demandé, quand vous avez un instant, pourrais-je vous parler un moment dans ma chambre? Il a dit, certainement, frère Branham. Je l'ai conduit à ma chambre, j'ai dit à ce ministre, révérend monsieur, vous êtes un étranger dans ce pays, mais cette dame, elle a un fameux nom ici. J'ai dit, vous avez fait le trajet depuis tel endroit jusqu'ici. Il a dit, oui, monsieur. Et j'ai dit, ne craignez-vous pas que cela vous fera... Je ne doute pas de vous, mais ne pensez-vous pas que ça pourrait se refléter sur votre réputation en tant que ministre? Ne pensez-vous pas que vous devriez montrer un exemple un peu meilleur que cela? Il dit, oh, cette dame est une sainte. J'ai dit, je ne doute pas à cela, frère, mais frère, il faut tenir compte du fait que tous ceux qui la regardent ne sont pas des saints. Ils observent ce que vous faites. Et je crois que vous devriez faire attention à cela. Je vous parle en tant que frère. Et j'ai dit, cette dame a été mariée 4 ou 5 fois. Et il m'a dit, oui, je sais cela, mais vous savez, mais vous n'enseignez pas cela chez vous dans votre église, n'est-ce pas, frère? Il dit, non, mais vous savez, j'ai une vision à ce sujet, frère Branham. Et j'ai dit, c'est très bien. Et il dit, si ça vous fait rien, je crois que je pourrais rétablir une petite chose dans votre enseignement à ce sujet. J'ai dit, d'accord. J'aimerais bien le savoir. Et il commença, eh bien, cette vision, j'étais endormi. Il dit oui. J'ai vu alors que c'était un songe. Mon épouse vivait avec un autre homme et me trompait. Ensuite, elle est venue vers moi et elle m'a dit, « Oh chérie, pardonne-moi, pardonne-moi. Je suis désolé d'avoir fait cela. Je vais être fidèle à partir de maintenant. Bien sûr, je l'aimais tellement que je lui ai pardonné. » Très bien, et alors? Et vous savez quoi? J'ai eu l'interprétation de cette vision. C'était cette femme-là. Bien sûr, elle a été mariée toutes ces fois. Mais c'est très bien pour elle de se marier parce que le Seigneur l'aime tellement qu'elle peut se marier aussi souvent qu'elle le désire. J'ai dit, votre vision est vraiment bien douce, mais c'est loin des chemins battus. Et c'est faux, vous savez, vous ne devriez pas faire cela. Voyez-vous? Mais quand vous voyez les Écritures s'accorder les unes les autres avec les Écritures, formant une constante continuité où elles se rassemblent, là où un passage s'arrête, un autre reprend ici et s'accorde, et ça dessine tout le tableau, c'est comme un puzzle. Vous trouvez la pièce qui s'adapte. Rien d'autre ne peut s'y adapter. Et finalement, l'image apparaît. Et il n'y en a qu'un qui puisse faire cela, c'est l'agneau. C'est pourquoi nous regardons à lui. Nous avons découvert que ce cavalier était un seul cavalier qui chevauchait ses chevaux. Et nous l'avons poursuivi d'un bout à l'autre, nous avons vu ce qu'il avait fait. Et nous avons découvert dans les âges de l'Église que c'est exactement ce qu'il a fait. Alors quand il est sorti sur une certaine bête pour faire certaines choses, nous découvrons qu'il y a eu quelqu'un d'envoyé pour combattre ce qu'il faisait. Un envoyé dans le premier âge, un lion, c'est la parole, bien sûr, Christ. Ensuite, c'était le bœuf dans l'âge, les âges sombres, lorsque l'Église s'était organisée et avait accepté des dogmes au lieu de la parole. Et vous vous souvenez que toute la chose était basé sur deux choses. L'une était l'Antéchrist, l'autre Christ. C'est encore la même chose aujourd'hui. Il n'y a pas de chrétien à moitié. On ne peut pas être ivre et sobre en même temps. Pas un oiseau blanc et noir en même temps. Pas un pécheur qui soit saint. Non, vous êtes soit un pécheur, soit un saint. Il n'y a pas entre les deux. Vous êtes soit né de nouveau ou pas né de nouveau. Vous êtes soit rempli du Saint-Esprit ou pas rempli du Saint-Esprit. Peu importe combien de sensations vous avez, si vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit, vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit. Et si vous avez été rempli, alors votre vie le montre. Personne n'aura besoin de le dire à qui que ce soit, on le verra, parce que c'est un sceau. Maintenant, nous voyons ces bêtes, comment elles chevauchaient chaque fois. L'une fut envoyée pour, ayant pour ministère d'unir les puissances politiques avec les puissances religieuses. Et nous avons découvert que Dieu a envoyé ses puissances à lui pour combattre cela. Nous sommes retournés en arrière. Nous avons vu ce qu'étaient les âges de l'Église. Et c'était exactement ainsi. Ensuite, nous découvrons que vient un autre âge où l'ennemi envoie l'Antéchrist sous le nom de religion, sous le nom de Christ, sous le nom d'Église. Oui, monsieur. Il est allé sous le nom d'Église. Il disait que c'était la véritable Église. L'Antéchrist n'est pas la Russie. L'Antéchrist, c'est pas cela. L'Antéchrist est si proche de la véritable chrétienté que la Bible dit qu'il séduirait tous ceux qui n'étaient pas prédestinés. La Bible dit cela dans les derniers jours. Tous ceux qui n'étaient pas prédestinés, les élus, il s'agit des élus. Maintenant, notez ce mot dans la marge pour voir ce qu'il signifie. Il s'agit des élus, des prédestinés. Il duperait tous ceux dont les noms n'étaient pas inscrits dans le livre de vie de l'agneau dès la fondation du monde. Lorsque l'agneau fut immolé, les noms furent placés dans le livre. Ce soir, il se tient dans la gloire, dans le lieu saint, en tant qu'intercesseur intercédant pour chacune de ces âmes dont le nom se trouve dans ce livre. Et personne ne connaît ce nom si ce n'est lui. Il est celui qui tient le livre dans sa main. Et il sait quand le dernier entrera. Alors, les jours de son intercession seront terminés, puis il s'avance alors pour prendre possession de ceux pour lesquels il a intercédé. Alors, il accomplit son œuvre par rédempteur, il s'avance pour recevoir les siens. Oh là là! Ça devrait pousser chaque chrétien à se sonder lui-même, à élever des mains saintes vers Dieu en disant « Purifie-moi, ô Seigneur, sonde ma vie et fais-moi voir ce qu'il y a de mauvais en moi et que je m'en débarrasse rapidement. » Car si le juste se sauve avec peine, où paraîtront le pécheur et l'impie? C'est le moment de s'examiner. Et si vous voulez voir où tout ceci se place, si vous voulez le vérifier par la parole, maintenant ne me posez pas de questions là-dessus parce que je veux dire des questions écrites parce que cela me ferait sortir du sujet. Je pense que beaucoup de ces questions ont été apportées. C'est le temps de l'investigation de jugement. C'est juste. Nous allons arriver maintenant en étudiant les trompettes ou les coupes si le Seigneur le permet. Et nous découvrirons en ce qui concerne ce jugement d'investigation que c'est juste avant le début des malheurs. Et nous verrons que cela est vrai. Nous verrons les trois anges qui frappèrent la terre en criant « Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre ». Et nous vivons dans une époque terrible. Vous voyez, les choses dans lesquelles nous sommes maintenant, que nous étudions, c'est après que l'Église soit partie. Ces choses sont la période de tribulation. Et je pense qu'il devrait être véritablement établi dans le cœur de chaque croyant que cette Église ne passera jamais par la période de tribulation. Vous ne pouvez placer nulle part l'Église dans la tribulation. Vous pouvez placer l'Église, mais pas l'épouse. L'épouse est partie. Parce que vous voyez, elle n'a aucun péché. Il n'y a rien contre elle. La grâce de Dieu l'a entièrement couverte. L'agent blanchissant a ôté chaque péché et l'a rejeté si loin qu'il n'en reste même pas le souvenir. Il ne reste que la pureté. Elle est parfaite dans la présence de Dieu. Oh, cela devrait jeter l'épouse à genoux et la faire crier à Dieu. Je pense à une petite histoire que j'aimerais vous raconter si je ne prends pas trop de temps maintenant. Dans ces préliminaires, je fais ceci dans un but. J'attends de sentir la présence de l'Esprit pour commencer. C'est une chose sacrée. Qui connaît ces choses? Personne, si ce n'est Dieu. Et elles ne sont pas censées être révélées. Je vais vous prouver par la Bible qu'elles ne seraient pas révélées avant ce jour. Exactement. On a deviné, mais maintenant nous sommes censés recevoir exactement la vérité confirmée. Remarquez, une petite fille dans l'Ouest qui était tombée amoureuse d'un homme qui était tombé amoureux d'elle. Il était marchand de bétail, travaillant pour la compagnie Armour. Un jour, le fils du patron de Chicago était venu là-bas, et bien sûr, ça avait été l'occasion d'une fête folklorique de l'Ouest. Toutes les filles s'étaient parées de leurs plus beaux atours. Elles étaient toutes décidées à le conquérir, parce que c'était le fils du patron. Ainsi, elles se sont vêtues de tous leurs vêtements typiques de l'Ouest. C'est ce qui se fait dans l'Ouest. Vers la fin d'une de ces fêtes folkloriques, le frère Maguire, je pense qu'il est ici maintenant, il s'est fait attraper en ville sans déguisement folklorique. Et on l'a jeté en prison. Et il dut paraître au tribunal de Kangaroo, où il fut condamné à une amende. Il devait aller s'acheter un équipement complet de l'Ouest. Je l'ai vu se promener dans la rue avec des pistolets longs comme ça jusqu'à la nature. Ils aiment revenir au temps d'autrefois. Ils essaient de revenir dans les jours du passé. Voyez. Et dans le Kentucky, vous essayez de revivre les jours du passé de l'Est. Vous retrouvez les jours de Renfrew Valley et les autres. Il y a quelque chose qui fait cela. Mais quand il s'agit de revenir à l'Évangile originel, vous ne voulez pas cela. Vous voulez quelque chose de moderne. Pourquoi l'homme fait-il le mal? Qu'est-ce qui le fait boire et se conduire mal? Ou une femme se conduire mal? C'est parce qu'elle essaye. Il y a quelque chose en elle qui a soif. Il y a quelque chose en lui qui a soif. Et ils essaient d'étancher cette sainte soif avec les choses du monde. Alors que Dieu devrait être celui qui étanche. Il vous a fait de cette manière pour que vous ayez soif. C'est pourquoi vous avez soif de quelque chose. Dieu vous a fait ainsi, afin que vous ayez cette sainte soif vers lui. Mais si vous essayez d'étancher cette soif, comment osez-vous faire cela? Vous n'avez aucun droit de faire cela. D'essayer d'étancher cette sainte soif en vous. Avoir soif de quelque chose. Et puis, vous la dirigez vers le monde pour essayer de la satisfaire avec le monde. Vous ne pouvez pas faire cela. Il n'y a qu'une seule chose qui puisse répondre à ce besoin, et c'est Dieu. Et il vous a fait ainsi. Ainsi, cette jeune fille, elle se mettait à prendre des manières de l'Ouest pour ce garçon. Chacune d'elles était sûre d'avoir ce garçon. Il y avait une petite cousine là dans le ranch, elle était une orpheline. Elle faisait simplement tout le travail pour les autres qui avaient arrangé leurs ongles, savaient qu'ils ne pouvaient pas faire la vaisselle et tout le reste avec leurs mains à s'y préparer. Donc elle faisait vraiment tout le travail difficile. Et finalement, lorsque le garçon est arrivé, elles sortirent toutes en chariot à sa rencontre dans le style de l'Ouest, tirant du pistolet, faisant toutes ces choses, faisant la comédie. Et ce soir-là, il y a eu un grand bal avec des danses à l'ancienne mode où tous les fermiers vinrent pour exécuter leurs danses. La première chose qui est arrivée, cela a continué, ce jubilé pendant 2 ou 3 jours. Un soir, alors que ce jeune homme sortait de l'endroit pour se reposer un peu et être débarrassé de ces jeunes filles pendant un moment, il regardait dans la direction de la ferme. Il aperçut une petite jeune fille vêtue de haillons qui portait un baquet à vaisselle plein d'eau. Elle venait de faire la vaisselle. Il pensa, « Je ne l'ai jamais vue auparavant. Je me demande d'où elle vient. » Donc il s'arrangea pour contourner les places là-bas et venir à sa rencontre. Elle était pieds nus. Elle était vers l'enclos à chevaux, là. Elle était pieds nus, elle s'est arrêtée, elle gardait la tête baissée, elle était très timide devant ce grand personnage. Elle n'était que la cousine de ces autres filles. Leur père était contremaître dans cette grande exploitation. Ainsi, elle continuait de garder les yeux baissés. Elle avait honte d'être nu-pied. Il lui demanda, « Comment t'appelles-tu ? » Elle lui dit, « Pourquoi n'êtes-vous pas là-bas avec les autres ?» Elle bafouillait en s'excusant. Et le lendemain soir, il la guetta de nouveau. Et il finit par s'asseoir sur la barrière de l'enclos pendant que tous les autres étaient en train de danser et de s'amuser. Et il l'observait. Et il lui dit, tu connais mon véritable but d'être ici? Il dit, non, monsieur, je ne sais pas. Il dit, mon but, pourquoi je suis ici, c'est pour chercher une épouse.
Et
je trouve en vous un caractère qu'elles n'ont pas. Je pensais à mon église. Et il a dit, veux-tu m'épouser? Elle a dit, moi, je ne peux pas penser à une telle chose. Moi, vous comprenez, c'était le fils du grand patron. Il possédait toutes les compagnies et les fermes de la région. Elle a dit, oui, j'en ai pas pu trouver une à Chicago. Je veux une véritable femme. Je veux une femme avec du caractère. Et les choses que je cherche, je les vois en toi. Il a dit, veux-tu m'épouser? Elle a dit, et cela la surprenait. Elle a dit oui. Il a dit, eh bien, il a dit qu'il reviendrait. Il a dit, prépare-toi. Dans un an, je reviendrai. Et je te prendrai. Je t'emmènerai loin d'ici. Tu ne devras plus travailler comme cela. Je t'emmènerai à Chicago. Et je te construirai là un foyer comme tu n'en as jamais vu. Elle a dit, je n'ai jamais eu de foyer, je suis orpheline. Il a dit, je vais te construire un foyer, un véritable. Et il a dit, je reviendrai. Elle garda cela dans son cœur toute l'année. Elle travailla tant qu'elle put afin d'économiser assez d'argent, $1 ou l'autre, qu'elle recevait par jour pour s'acheter une robe de mariée. Elle prépara ses vêtements, vous savez, lorsqu'elle présenta cette robe de mariée. Ses cousines lui dirent, Pauvre petite folle, penses-tu qu'un homme comme cela voudra avoir affaire avec toi? Mais elle dit, mais il a promis. Il a promis et je crois sa parole. Oh, il s'est simplement moqué de toi. S'il avait voulu quelqu'un, il aurait pris l'une des autres. Mais elle dit, il m'a promis. Je m'y attends. Et moi aussi. Les jours passèrent, le jour finalement arriva. Sa fiancée devait arriver à une certaine heure, alors elle a revêtu sa robe, elle n'avait même plus entendu parler de lui, mais elle savait qu'il serait là. C'est pourquoi elle s'est revêtue de ses vêtements de noces, elle s'est préparée. Alors ses compagnes riaient vraiment parce que le grand patron était allé voir le contremaître et aucune de ses filles n'avait entendu parler de rien. Ainsi, tout ça était mystérieux. Et c'est bien comme cela, certainement. Mais cette jeune fille avait tout fondé sur la base de sa parole, disant qu'il reviendrait pour elle. Elle se moquait d'elle, se tenant par la taille et dansant autour de la pauvre fille en riant aux éclats et la traitant de pauvre petite folle. Mais elle était là, simplement, elle ne rougissait même pas, elle tenait son bouquet de fleurs, elle était prête, vêtue de sa robe de mariée. Son épouse s'est préparée. Elle tenait ses fleurs, elle attendait. Et ses compagnes disaient, « Maintenant, nous t'avons bien dit que ce n'était pas vrai. Tu vois, il ne vient pas. » Elle dit, « Il reste encore 5 minutes, il sera là. » Elle ne faisait que rire, mais juste au moment où l'horloge eut égrené ses 5 minutes, on entendit le galop de plusieurs chevaux. Le gravier crissait sous les roues, le vieux chariot s'est arrêté. Elle s'échappa du milieu de ses compagnes, elle sortit, elle sauta sur le chariot, elle tomba dans ses bras. Il lui dit, ma chérie, c'est terminé maintenant. Elle quitta ses petites cousines, les dénominations, les laissant là, à la regarder. Je connais une autre grande promesse semblable à celle-là. Lorsque je m'en serai allé, je vous aurai préparé une place. Je reviendrai, je vous prendrai avec moi. Ils peuvent dire que nous sommes fous, mais mes frères, pour moi, en ce moment même, avec ces sceaux qui se brisent, sous l'action surnaturelle, je peux presque entendre le bruit de l'horloge qui nous rapproche de l'éternité. Je peux presque voir cet ange se tenir là en disant, au temps du message du dernier messager, il n'y aura plus de temps, le septième ange. Un de ces jours, cette épouse loyale s'envolera dans les bras de Jésus lorsqu'il la prendra pour la conduire dans la maison du Père. Pensons à ces choses maintenant, alors que nous continuons. Remarquez, le ministère du lion, la parole, le bœuf, le labeur, le sacrifice, la perspicacité des réformateurs et ensuite l'âge de l'aigle qui vient révéler et saisir ces choses et les montrer. Nous avons aussi vu hier soir le grand mystère qui s'est ouvert avec ce sceau, qui était absolument contraire à ma compréhension précédente. Je présumais seulement que c'était juste. J'avais toujours pensé que ces âmes sous l'autel étaient les premiers martyrs chrétiens. Mais nous avons découvert hier soir, lorsque Dieu brisa ce sceau pour nous, que c'est absolument impossible, ce n'était pas eux. Ils étaient loin de l'autre côté dans la gloire. Et nous avons découvert que c'étaient les Juifs qui viendraient dans le temps de l'appel des 144 000, ce que nous verrons ce soir et demain, entre le sixième et le septième sceau, les 144 000 sont appelés. Et nous avons découvert que c'était des martyrs qui avaient été tués, mais ils avaient une robe blanche et leur nom avait été trouvé dans le livre de vie de l'agneau. Et il leur fut donné une robe blanche à chacun d'eux. Nous avons examiné cela. Et je ne crois pas qu'il y ait rien dans le monde, à part ce groupe de Juifs qui est passé par une période de pré-tribulation. Pendant la dernière guerre, ils en vinrent à être haïs de tous. Et Eichmann en a tué des millions en Allemagne. Vous avez entendu parler du procès. Des millions d'innocents ont été massacrés. Des Juifs, simplement parce qu'ils étaient Juifs, sans aucune autre raison. La Bible dit qu'ils avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et du témoignage qu'ils avaient rendu. Et nous avons découvert que l'épouse et la parole de Dieu Et quel est le témoignage de Jésus-Christ? Mais les Juifs n'avaient aucun témoignage de Jésus-Christ. Et nous avons découvert que la Bible dit que tout Israël, l'Israël prédestiné, sera sauvé. Romains 11. Nous savons cela. Et nous avons vu ces âmes. Regardez maintenant comme c'est proche. Pourquoi cela ne pouvait-il être auparavant? Parce que ce n'était pas arrivé auparavant. Mais maintenant vous pouvez les voir, voyez. Observez le glorieux Saint-Esprit, voyant ces choses arriver tout au long des âges et des temps. Et maintenant, c'est en train d'être révélé. Et vous regardez, vous voyez que c'est la vérité. Voilà où en sont les choses. C'était les martyrs dans la période de pré-tribulation d'Eichmann. Et ce n'est qu'un type des 144 000 martyrs qui entrent entre le sixième et le septième sceau. Et dans ce septième sceau, il n'y a qu'une chose, c'est tout. Dans le septième sceau, le silence d'une demi-heure dans le ciel. Maintenant, seul Dieu peut révéler cela. Ce n'est même symbolisé nulle part. Nous verrons cela demain soir. Priez pour moi. Nous remarquons maintenant, alors que nous entrons dans le sixième sceau, que notre Père Céleste nous aide alors que nous nous mettons à ouvrir maintenant ce sixième sceau. Lisons le chapitre 6 à partir du verset 12. Et je vis lorsqu'il ouvrit le sixième sceau, il y eut un grand tremblement de terre et le soleil devint noir comme un sac de poils et la lune devint tout entière comme du sang et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme un figuier agité par un grand vent jette loin ses figues tardives et le ciel se retira comme un livre qui s'enroule. Et toute montagne et toute île furent transportées de leur place. Et les rois de la terre et les grands, et les riches, et les capitaines en chef, et les puissants, et tout esclave, tout homme libre, se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Vous remarquez ici, ces hommes puissants, voyez, qu'ont-ils fait? Ils ont reçu le vin de la colère à cause de la fornication de la prostituée. C'est exactement cette classe-là, voyez, qui a bu de son vin. Et ils disent aux montagnes, aux rochers, tombez sur nous et tenez-nous cachés de devant la face de celui qui est assis sur le trône et de la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu et qui pourra subsister? Quelle introduction! Voyez-vous maintenant ces cavaliers, les bêtes et celles qui répondaient aux bêtes ont cessé leur activité. Alors nous sommes enlevés et ensuite nous voyons les martyrs sur le trône. Ces martyrs sont les vrais juifs orthodoxes qui sont morts dans la foi chrétienne, ou plutôt dans leur foi religieuse, parce qu'ils ne pouvaient pas être des chrétiens. Rappelez-vous que Dieu les a aveuglés. Et ils resteront aveugles longtemps jusqu'au jour où l'Église des nations est enlevée. Parce que Dieu ne s'occupe pas de ces deux peuples à la fois, parce que c'est tout à fait contraire à sa parole. Rappelez-vous, il s'occupe d'Israël en tant que nation, toujours. C'est la nation d'Israël. Il traite des nations en tant qu'individus. C'est un peuple pris parmi les nations, les gentils. Les nations devaient être faites à partir de tous les peuples du monde. C'est pourquoi ici ou là, un juif y entre au même titre que les Arabes, les Irlandais, les Indiens, et encore, ce sont tous les peuples du monde qui forment cette épouse, ce bouquet. La dernière partie des 70 semaines, quand il s'agit de s'occuper d'Israël, il s'occupe d'eux en tant que nation. Les nations sont terminées. L'heure arrive bientôt, et cela pourrait être cette nuit même, où Dieu se détournera tout à fait des nations. Exactement, il l'a dit. Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient terminés. Les temps seront terminés. Oui, monsieur, et alors, que celui qui est souillé demeure souillé, que celui qui est juste pratique encore la justice. Il n'y a plus du tout de sang sur le trône, dans le sanctuaire, sur l'autel. Il n'y a plus de sang sur l'autel, le sacrifice a été ôté. Il n'y a plus que de la fumée, des éclairs et le jugement là. C'est exactement ce que nous verrons se déverser ici ce soir. L'agneau a quitté son œuvre médiatrice. L'œuvre d'intercession est terminée là-haut, sur le trône. Le sacrifice, comme nous en avons donné parfaitement le type, le parent rédempteur, l'agneau sanglant qui s'est avancé comme un agneau immolé, qui a été tué, meurtri. Le parent rédempteur s'avance et prend le livre de sa main. C'est alors que le temps est terminé. Maintenant, il vient réclamer ce qu'il a racheté. Amen. Oh, ça me fait ressentir quelque chose à travers mon corps. Nous voyons maintenant que Jean, lorsqu'il ouvrit le sixième sceau, il se fait un grand tremblement de terre. Alors toute la nature fut interrompue. Dieu a fait de grandes choses, comme guérir les malades et ouvrir les yeux des aveugles. Il a fait de grandes choses. Mais nous voyons ici que la nature a été bouleversée. Oui, toute la nature, regardez ce qui est arrivé. Il y a eu un tremblement de terre, le soleil devint noir, la lune ne donnait plus sa lumière, les étoiles secouées et qui tombent. Tout cela est arrivé juste au moment de l'ouverture de ce sixième sceau. C'est alors que cela arrive. Immédiatement après l'annonce faite à ces martyrs, le temps des martyrs est terminé. Vous voyez que nous sommes proches de cette heure maintenant, ça pourrait arriver n'importe quand. Voyez-vous, parce que l'Église est presque prête à prendre son envol. Mais souvenez-vous que lorsque ces choses arriveront, l'épouse ne sera pas ici. Souvenez-vous simplement que l'épouse est partie. Elle n'aura pas à passer par aucune de ces choses. Ceci est un temps de tribulation, la purification de l'Église. C'est une épreuve qui est mise sur elle, par laquelle elle doit passer. Pas l'épouse, il ôte sa bien-aimée, il l'enlève de là, bien sûr, il l'a rachetée. Voyez-vous, c'est sa sélection, c'est son choix, comme n'importe quel homme qui prend son épouse. Maintenant, tremblement de terre, comparant les Écritures. Est-ce que vous avez un crayon et du papier? J'aimerais que vous fassiez quelque chose pour moi. Si vous voulez prendre des notes, écrivez-le, à moins que vous ne receviez les bandes. J'aimerais que vous lisiez avec moi, comme vous le faites d'habitude, comparant les Écritures avec ce grand événement, afin de bien voir ce grand secret ou mystère qui était sous le sixième sceau du livre de la rédemption. Maintenant, souvenez-vous, ce sont des mystères cachés. Et le sixième sceau est un seul grand livre. Il y avait six livres roulés ensemble et en se déroulant, dévoile le livre de la rédemption tout entier. C'est ainsi que toute la terre a été rachetée. C'est la raison pour laquelle Jean pleurait, parce que personne ne pouvait ouvrir. Si personne ne pouvait ouvrir le livre, toute la création était perdue. Elle serait simplement retournée aux atomes, aux molécules, à la lumière cosmique. Il n'y aurait plus eu de création, personne, rien. Parce qu'Adam avait perdu les droits à ce livre. Il les a abandonnés quand il a écouté sa femme. Et elle a écouté les raisonnements de Satan plutôt que la parole de Dieu. Il a abandonné. Mais le livre ne pouvait revenir dans les mains sales de Satan qui fait sortir Ève du droit chemin en la séduisant. C'est pourquoi il est retourné à son propriétaire originel. Mais comme n'importe quel titre de propriété, il retourna à son propriétaire originel et c'était Dieu, le Créateur. C'est lui qui l'avait fait. Et il le détient. Et il y a un prix. C'est la rédemption. Il y avait un prix à payer pour la rédemption et personne ne pouvait le faire. Il avait dit, il avait ses lois, ses propres lois de parents rédempteurs. Mais on n'avait pu trouver personne. Tout homme est né par le sexe, à la suite d'un désir sexuel. Tout homme était là dans le péché originel avec Satan et Ève. C'est pourquoi il ne pouvait pas le faire. Il n'y a rien de digne en lui, qu'il soit pape, prêtre, docteur en théologie ou quoi que ce soit. Aucun n'est digne. Cela ne pouvait pas être un ange parce qu'il fallait que ce soit un parent, il devait être un homme. C'est alors que Dieu lui-même est devenu un parent en prenant une chair humaine par la naissance virginale. Et il a versé son sang. Ce n'était pas le sang d'un juif, ce n'était pas le sang d'un homme des nations, C'était le sang de Dieu. La Bible dit que nous sommes sauvés par le sang de Dieu. L'enfant prend le sang de son père. Nous savons cela. Quelque chose dans le mâle produit l'hémoglobine. Comme une poule peut pondre un œuf, si le coq n'a pas été avec elle, cet œuf ne va pas éclore, il n'est pas fertile. La femme n'est qu'un incubateur qui porte l'œuf. Mais l'œuf, le germe, vient du mâle. Et dans ce cas, le mâle était Dieu lui-même. C'est pourquoi je dis que ce qui est haut est bas et ce qui est grand est petit. Dieu était grand au point qu'il prit lui-même la forme d'un germe minuscule dans le sein d'une vierge. Et autour de cela, il développa les cellules et le sang, et il est né et fut élevé sur la terre. Et à partir de cette sorte de départ, sans mélange, sans aucun désir sexuel. Ensuite, il nous donna le sang parce qu'il était devenu notre parent, il était le parent rédempteur. Il répandit ce sang librement. Il n'était pas obligé de le faire, il l'a donné librement pour racheter. Alors il monte sur l'autel de Dieu et il attend là, pendant que Dieu tient le livre de la rédemption dans sa main et l'agneau sanglant se tient là sur l'autel du sacrifice. C'est l'agneau destiné à faire la rédemption, il fait l'intercession. Alors comment ose-t-on dire que Marie, Joseph ou un mortel quelconque puisse être un intercesseur? Vous ne pouvez intercéder à moins qu'il y ait du sang. Oui, il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et l'homme, et c'est le Christ Jésus. C'est ce que dit l'Écriture. Le voici qui se tient là jusqu'à ce que la dernière âme ait été rachetée, et ensuite il s'avance pour réclamer ce qu'il a racheté. Oh, quel grand père, formidable père il est. J'ai toujours enseigné que toute parole soit établie dans la déposition de deux ou trois témoins. Et les Écritures, vous ne pouvez pas prendre un passage unique des Écritures et prouver quoi que ce soit avec lui sans qu'il y ait quelque chose d'autre qui aille avec. Vous voyez, je peux prendre un passage de l'Écriture en disant « Judas alla se pendre » et en disant « Va, il fait la même chose ». Oui, mais ça ne correspond pas avec le reste. J'étais en pensée dans ce sixième sceau lorsque le Saint-Esprit l'a brisé, j'ai vu ce que c'était. Alors, je pensais qu'il serait bon de donner cela à la classe d'une manière différente ce soir parce que ça pourrait être lassant pour vous de ne rien faire d'autre que de m'écouter parler tout le temps. C'est la raison pour laquelle j'ai pensé que nous pourrions faire quelque chose de différent. Remarquez maintenant que ce grand événement était scellé dans le livre du mystère de la rédemption. Maintenant, l'agneau le tient dans sa main et il va le briser. Maintenant, regardons dans Matthieu au chapitre 24. C'est l'agneau lui-même qui parle. Et nous savons tous que c'est Christ qui est l'auteur de l'ensemble du livre. Mais en ce qui concerne ce passage, c'est le discours ou le sermon qu'il fait à son peuple, les Juifs. Maintenant, je voudrais que vous teniez votre Bible comme ceci, Matthieu 24 et Apocalypse 6 comme ceci. Et nous allons comparer quelque chose. Soyez attentifs et vous allez découvrir ce qu'il en est. Voyez ce que l'agneau ici montre exactement en symbole ce qu'il dit ici dans la parole. Exactement. C'est cela qui fait que c'est juste. Tout est là. Il y a un passage où il parle et là nous voyons où cela s'accomplit. C'est simplement une confirmation parfaite. Regardons le 24e chapitre de Saint Matthieu et Apocalypse 6 et comparons le 24e chapitre de Matthieu. Nous savons tous que c'est le chapitre auquel tous les érudits, auquel tout le monde se réfère pour parler de la période de la tribulation. Cela ressort du chapitre 24 de Matthieu. Nous savons que si c'est ainsi, que le sixième sceau est le sceau du jugement. C'est le sceau du jugement, exactement ce qu'il est. Maintenant, je pense que nous avons vu la chevauchée de l'Antéchrist et que l'Église monte maintenant que c'est terminé. Ensuite, nous voyons les Juifs martyrs là sous l'autel. Maintenant, voici le jugement qui éclate sur les gens qui sont sortis du jugement de cette tribulation. C'est de là que viennent les 144 000 Juifs rachetés. Je vais vous prouver que ce sont des Juifs et pas des gens des nations. Ils n'ont rien à faire avec l'épouse. Nous avons vu que l'épouse est partie. Vous ne pouvez placer ça nulle part. Elle ne réapparaît plus jusqu'au 19e chapitre de des actes. Remarquez donc que le sixième sceau est le sceau du jugement de la parole. Commençons à lire maintenant Saint Matthieu, le 24e chapitre. Je voulais seulement vous donner quelque chose à chercher avec moi. Saint Matthieu, de 1 à 3, nous allons lire là premièrement. Et Jésus sortit et s'en alla du temple, et ses disciples s'approchèrent de lui pour lui montrer les bâtiments du temple. Et il leur dit, « Ne voyez-vous pas toutes ces choses, en vérité, je vous le dis, il ne sera point laissé ici, pierre sur pierre, qui ne soit jetée à bas. » Et au troisième verset, « Comme il était assis sur la montagne des Oliviers, les disciples vinrent à lui, en privé, lui disant, « Dis-nous, quand ces choses auront lieu, et quel sera le signe de ta venue et de la fin du monde ?» Arrêtons-nous là. Ces trois versets se passent en réalité le mardi après-midi, le 4 avril de l'an 30 de notre ère. Les deux premiers versets se passèrent l'après-midi du 4 avril de l'année 30. Mais le troisième verset se place le mardi soir du même jour. Ils allèrent au temple et lui demandèrent ces choses. Qu'en est-il de ceci? Qu'en est-il de cela? Regarde ce grand temple, n'est-ce pas merveilleux? Et il dit, ne restera pas pierre sur pierre. Ensuite, il monta sur la montagne et s'assit là. C'était l'après-midi. Et c'est alors qu'ils lui demandèrent, nous aimerions savoir certaines choses. Maintenant, remarquez. Trois questions furent posées par les Juifs, ses disciples. Trois questions furent posées. Premièrement, quand ces choses auront-elles lieu, quand il ne restera pas une pierre sur pierre? Quel sera le signe de ta venue? Deuxième question. Et la fin du monde, voyez? Ces trois questions. Et c'est là que beaucoup d'hommes font leur faute. Ils appliquent ces choses ici à une certaine époque, alors qu'ils répondent à trois questions. Regardez comme c'est beau. Le troisième verset, ou plutôt la dernière partie, est quel sera le signe? Ils allaient le trouver en particulier sur la montagne des Oliviers. Dis-nous, quand ces choses auront lieu? Première question. Et quel sera le signe de ta venue? Question numéro 2. Et de la fin du monde? Question numéro 3. Vous voyez? Il y a trois questions différentes. Maintenant, j'aimerais que vous tourniez ici et que vous observiez comment Jésus leur parle de ces choses. Oh, c'est si beau! Cela me fait... Quel est le mot que j'avais utilisé l'autre soir? La stimulation de la révélation. Remarquez. Remontons maintenant au premier sceau. Sceau de ce livre et comparons ce premier sceau avec la première question. Et chaque question, faisons la comparaison d'un bout à l'autre et voyons si ces choses ne marchent pas main dans la main, comme nous l'avons vu en ouvrant les âges de l'Église et où cela s'est passé exactement de la même manière. Alors le sceau est parfaitement ouvert. Maintenant, nous allons lire. Il leur répondit. Et alors il va commencer à leur répondre, et nous voulons comparer cela avec les sceaux. Maintenant regardez, l'ouverture du premier sceau, c'est Apocalypse 6, 1 et 2. Nous allons lire 6, 1 et 2. Et je vis, lorsque l'agneau ouvrit l'un des sept sceaux, j'entendis l'un des quatre animaux comme une voix de tonnerre. Et l'une des bêtes dit, viens et vois, et je vis, et voici un cheval blanc. Et celui qui était assis dessus avait un arc, et une couronne lui fut donnée, et il est sorti en vainqueur et pour conquérir. Qui avons-nous découvert qui était ce personnage? L'Antichrist. Matthieu 24 maintenant. 4 et 5. Et Jésus répondant leur dit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront en mon nom disant, je suis le Christ, et ils en séduiront plusieurs. Vous voyez? Antichrist. Voilà votre sceau. Il a parlé ici, et ici, le sceau est ouvert. C'est tout simplement parfait. Maintenant, le deuxième sceau. Matthieu 24, 6. et Apocalypse 6, 3 et 4. Regardez. Matthieu 24, 6. Laissez-moi voir ce qu'il dit. Et vous entendez parler de guerre et de bruit de guerre. Prenez garde que vous ne soyez troublés, car il faut que tout arrive. Mais la fin n'est pas encore. Très bien. Prenons le deuxième sceau. Apocalypse 6, 3 et 2. Observons ce qu'il dit. Et lorsqu'il ouvrit le second sceau, j'entendis le second animal disant, viens et vois. Et il sortit un autre cheval, roux, et il fut donné à celui qui était assis dessus d'ôter la paix de la terre et de faire qu'ils s'égorgeassent l'un l'autre, et il lui fut donné une grande épée. Parfaitement. Exactement. Oh, j'aime faire répondre l'Écriture à elle-même. C'est le Saint-Esprit qui a tout écrit, et il est capable de le révéler. Remarquons le troisième sceau. Maintenant, c'est la famine. Matthieu 24, 7 et 8. Prenons 7 et 8. Car nation s'élèvera contre nation et royaume contre royaume, et il y aura des famines et des pestes, des tremblements de terre en divers lieux, mais toutes ces choses sont un commencement de douleur. Tout cela arrive maintenant. Maintenant, Apocalypse, comment nous allons ouvrir le troisième sceau qui se trouve dans Apocalypse 6, 5 et 6. Et lorsqu'il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième animal disant, viens et vois. Et je vis, et voici un cheval noir. Et celui qui était assis dessus, ayant une balance dans la main. Et j'entendis une voix au milieu des quatre animaux disant, une mesure de froment pour un denier, et trois mesures d'orge pour un denier. Et ne nuis pas à l'huile et au vin. La famine, vous voyez, c'est exactement le même sceau. C'est la même chose que Jésus a dite. Bien, le quatrième sceau, la peste et la mort, remarquez. Matthieu 24, nous lirons le verset 8, 7 et 8, je crois qu'il s'agit de ce quatrième sceau. Qu'est-ce que je viens de lire ici? Est-ce que j'ai lu quelque chose de faux? Oui, je l'avais marqué. Oui, nous y voilà maintenant. Maintenant, commençons ici au verset 7, qui parle de ce quatrième sceau, et le verset 6 et 7 et 8 de l'Apocalypse. Voyons 7 et 8 dans Matthieu 24. Très bien. Car nation s'élèvera contre nation et royaume contre royaume, et il y aura des famines et des pestes, des tremblements de terre en divers lieux, mais toutes ces choses sont un commencement de douleur. Maintenant, le quatrième sceau, nous lisons ici. 7 et 8, et lorsqu'il ouvrit le quatrième sceau, et j'entendis la voix du quatrième animal disant, viens et vois, et voici un cheval pâle. Attendez un moment, je crois que j'ai fait une erreur. Juste une minute. 7 et 8. Matthieu 24, 7 et 8. C'est la troisième ouverture, n'est-ce pas? Matthieu 24, 7 et 8. Je suis désolé. Cela ouvre la pluie ou la famine. Ça ouvre la famine, très bien. Il y a les pestes et la mort. Oui, monsieur, maintenant nous y arrivons. Vers 7 et 8, c'est le quatrième sceau. Voyons où se trouve le quatrième sceau. Et lorsqu'il ouvrit le quatrième sceau, oui, c'est le cavalier au cheval pâle, la mort, voyez-vous. Et je vis, et voici un cheval pâle. Et le nom de celui qui était assis dessus, c'est la mort. Et le Hadès suivait avec lui, il lui fut donné pouvoir sur le quart de la terre pour tuer avec l'épée, et par la famine et par la mort, et par les bêtes sauvages de la terre. Vous voyez maintenant, c'était la mort. Maintenant, le cinquième sceau, Matthieu 24, 9, 13. Voyons si je ne me suis pas de nouveau trompé. Et alors, ils vous livreront pour être affligés et ils vous feront mourir. Vous y voilà. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Et alors, plusieurs seront scandalisés et se livreront l'un l'autre et se haïront l'un l'autre. Et plusieurs faux prophètes s'élèveront et en séduiront plusieurs. Et parce que l'iniquité abondera, l'amour de plusieurs sera refroidi, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Maintenant, nous sommes dans le cinquième sceau. C'était hier soir, voyez-vous. Ils vous livreront, ils se trahiront les uns les autres, et ainsi de suite. Maintenant, regardez ici ce cinquième sceau. Apocalypse 6, de 9 à 11. Prenons cela dans Apocalypse 6, de 9 à 11. Et lorsqu'il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'âme, sous l'autel, les âmes de ceux qui avaient été égorgés pour la parole de Dieu et pour le témoignage qu'ils avaient rendu. Et ils crient à voix haute, disant, « Jusqu'à quand, Seigneur, saint et véritable, ne juges-tu pas et ne venges-tu pas notre sang sur ceux qui habitent sur la terre ?» Et il leur fut donné à chacun une robe blanche, et il leur fut dit, qu'ils se reposent encore une petite saison, jusqu'à ce que leurs compagnons d'esclavage et leurs frères soient mis à mort, comme eux, que cela soit accompli. Nous voyons sous le cinquième sceau, nous trouvons ici des martyrs. Et dans Matthieu 24, de 9 à 13, nous trouvons aussi des martyrs. Alors ils vous livreront pour être affligés. Voyez, le même sceau qui est ouvert. Maintenant, dans le sixième sceau, c'est là où nous arrivons maintenant, Matthieu 24, 29 et 30. Prenons verset 29 et puis 30. Nous y voilà. Nous verrons aussi Apocalypse 6, de 12 à 17. C'est exactement ce que nous venons de lire. Maintenant, écoutez. Ce que Jésus a dit dans Matthieu 24, versets 29 et 30. Et aussitôt, après la tribulation de ces jours-là, cette tribulation n'est qu'une tribulation amateur par laquelle ils sont passés, vous voyez. Le soleil sera obscurci, la lune ne donnera pas sa lumière, et les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Et alors paraîtra le signe du Fils de l'homme dans le ciel, et alors toutes les tribus de la terre se lamenteront et verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Lisons maintenant dans Apocalypse, le sixième sceau, le sceau dont nous occupons maintenant. Et voici, lorsqu'il ouvrit le sixième sceau, il se fit un grand tremblement de terre, et le soleil devint noir comme un sac de poils, voyez, de poils. Et la lune devint tout entière comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme un figuier agité par un grand vent jette loin ses figues tardives. Et le ciel se retira comme un livre qui s'enroule, et toute montagne et toute île furent transportées de leur place, et les rois de la terre, et les grands hommes, et les riches, et les capitaines en chef, et les hommes puissants, et tout esclave et tout homme libre se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes, et ils disent aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et tenez-nous cachés de devant la face de celui qui est assis sur le trône, et de devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu, et qui pourra résister? C'est parfaitement. Mais retournons en arrière. Voyons ce que Jésus dit dans Matthieu 24, 29-31. Pensez ici au cas d'Eichmann. Et aussitôt après la tribulation de ces jours-là, le soleil sera obscurci, et la lune ne donnera pas sa lumière, et les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Et regardez. Et alors paraîtra le signe du Fils de l'homme dans le ciel. Et alors, toutes les tribus de la terre se lamenteront et verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec une grande puissance et une grande gloire. Et il enverra ses anges avec un grand son de trompette et ils se rassembleront, ses élus des quatre vents. Voyez, c'est exactement, ça se compare avec ce que Jésus a dit dans Matthieu 24. Et ce que le révélateur ici a ouvert dans le sixième sceau, juste exactement, et Jésus parlait de la période de tribulation. Il commençait par lui demander quand seraient ces choses, quand le temple serait ôté. Il a répondu. Ensuite, ils demandèrent quand viendrait le temps, l'âge des martyrs. Ils demandèrent quand cela serait, quand l'Antéchrist s'élèverait, quand l'Antéchrist ôterait le temple. Daniel, nous pourrions revenir en arrière et parler de Daniel quand il dit quand ce prince viendrait. Vous qui lisez la Bible, vous connaissez cela. Et que ferait-il? Il enlèverait le sacrifice quotidien et il y aurait toutes ces choses qui se passeraient pendant ce temps-là. Jésus, en parlant ici, le souligna. Il dit, quand vous verrez l'abomination de la désolation dont il a été parlé par le prophète Daniel, se tenir dans le lieu saint. Qu'est-ce que c'est? La mosquée d'Omar est sur l'emplacement du temple après que celui-ci ait été brûlé. Et il dit que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, que celui qui est dans les champs ne retourne pas en arrière, car ce sera un temps de trouble. Voyez, toutes ces choses sont arrivées et continuent jusqu'à maintenant et sont confirmées jusqu'à l'ouverture de ce sixième sceau. Remarquez, je veux que vous remarquiez bien. Jésus, Demain soir, nous verrons. Jésus a omis l'enseignement du septième sceau. Ce n'est pas ici. Regardez, il continue directement avec la parabole après cela. Et Jean a omis le septième sceau. Le septième, dernier, le septième sceau. Ce sera une grande chose. Ce n'est même pas écrit. Ils ont omis le septième sceau, tous les deux. Et le révélateur, Jean a dit, il se fit simplement le silence dans le ciel. Et Jésus n'en a pas dit un mot. Remarquez, retournons à notre deuxième verset. C'est à ce deuxième verset que nous commençons à voir ce sceau s'ouvrir. Aucune bête, une créature vivante, pas plus que dans le cinquième sceau. Pourquoi? Ceci arrive de l'autre côté de l'âge de l'Évangile, dans la période de tribulation. Le sixième sceau, c'est la période de tribulation. C'est ce qui s'y passe. L'épouse est partie. Voyez? Il n'y a plus d'êtres vivants, de créatures vivantes, personne qui puisse dire. Maintenant, Dieu ne s'occupe plus de l'Église, elle est partie. Il s'occupe d'Israël. Voyez? C'est l'autre côté. C'est quand Israël reçoit le message du royaume par les deux prophètes d'Apocalypse 11. Souvenez-vous, Israël est une nation. La nation au service de Dieu. Et lorsqu'Israël est amené, ce sera une affaire nationale. Israël, l'âge du royaume, c'est lorsque David, le fils de David, s'assiera sur le trône. C'est la raison pour laquelle la femme a crié, « Toi, fils de David !» Fils de David, Dieu a juré à David qu'il lui susciterait un fils qui prendrait le trône et que ce serait un trône éternel, oui, sans fin. Salomon en a donné un type avec le temple, et Jésus leur a dit qu'il n'en resterait pas pierre sur pierre. Mais qu'essayait-il de leur dire? Il leur parlait de son retour. Quand reviendras-tu? Ces choses doivent avoir lieu avant mon retour, et elles sont ici. Maintenant, c'était le temps de la tribulation. Rappelez-vous, quand le royaume est établi sur la terre, maintenant, ceci peut vous paraître un peu choquant, mais n'hésitez pas à me poser des questions si vous ne connaissez pas cela, parce que je n'ai fait qu'aborder ce sujet jusqu'à présent. Dans le temps du millénium, c'est Israël qui est une nation. Les 12 tribus sont une nation, mais l'épouse est dans le palais. Elle est la reine maintenant, elle est mariée. Et toute la terre viendra dans cette cité, Jérusalem, pour lui donner gloire. Et ses portes ne seront pas fermées pendant la nuit, car il n'y aura pas de nuit. Ses portes seront toujours ouvertes. Et les rois de la terre, Apocalypse 22, viendront rendre honneur et gloire à cette cité. Mais l'épouse est là-dedans, avec l'agneau. Oh là là! Pouvez-vous voir cela? Là-dedans, l'épouse, elle, ne sortira pas pour travailler dans la vigne. Non, monsieur, elle est l'épouse. Elle est la reine pour le roi. Ce sont les autres qui travaillent là-dehors, les nations, pas l'épouse. Amen. Très bien. Remarquez, ces messagers d'Apocalypse 2, ces deux prophètes, vont prêcher, le royaume est proche, le royaume des cieux doit être établi. Ce temps-là, c'est la dernière période de 3 ans et demi de la 70e semaine de Daniel promise aux Juifs, son peuple. Rappelez-vous maintenant, pour prouver cela, que ceci est La dernière partie de la 70e semaine de Daniel, j'ai une question à ce sujet pour demain. 70 semaines avaient été promises, qui sont 7 ans. Et au milieu de la 70e semaine, le Messie devait être retranché pour être sacrifié. Il prophétiserait 3 ans et demi. Et ensuite serait retranché pour être un sacrifice pour les gens. Et il y a encore 3 ans et demi de déterminé pour Israël. Alors, lorsque le Messie fut retranché, les Juifs furent aveuglés afin qu'ils ne puissent pas voir que c'était le Messie. Et ensuite, lorsque le Messie fut retranché, l'Évangile et l'âge de la grâce parvinrent aux nations. Et lorsqu'ils sont là, Dieu en prend un ici, un là, il les met à part sous l'autorité des messagers, un ici, un là, il les met à part sous l'autorité des messagers, il a envoyé le premier messager, celui a prêché et a sonné de la trompette, comme nous le verrons plus tard, et la trompette représente une déclaration de guerre. La trompette signifie toujours la guerre. C'est vrai pour le messager, l'ange qui vient sur la terre, le messager de l'heure, comme Luther et tous les autres messagers dont nous avons parlé. Que fait-il? Il arrive, et un sceau est ouvert. Révélé, une trompette sonne, et la guerre est déclarée. Puis ils s'en vont. Ensuite, le messager meurt. Il scelle et met à part ce groupe qu'il a fait entrer, et une plaie tombe sur ceux qui l'ont rejeté. Et ensuite, cela continue, et ils s'organisent. Il faut une autre organisation. Nous venons de voir cela. Et ils viennent ensuite avec une autre puissance, un autre âge de l'Église et un autre ministère. Et pendant ce temps-là, Dieu vient avec son ministère à lui, alors que l'Antéchrist vient avec le sien. Vous voyez, anti veut dire contre. Ils marchent côte à côte. Je voudrais vous faire remarquer une petite chose. Au temps où Caïn est venu sur la terre, Abel est venu sur la terre. Je vais vous faire remarquer que, au temps où Christ est venu sur la terre, Judas est venu sur la terre. Au temps où Christ a quitté la terre, Judas a quitté la terre. Juste au temps où le Saint-Esprit est tombé, l'Antéchrist est tombé. Juste au temps où le Saint-Esprit se révèle ici, dans les derniers jours, l'Antéchrist montre ses couleurs, apparaissant à travers de la politique et ces choses. Et juste au temps où l'Antéchrist entre pleinement en scène, Dieu entre lui-même pleinement en scène pour nous racheter. Les deux vont ensemble. Et ils sont tous les deux côte à côte. Caïn et Abel. Le corbeau et la colombe dans l'arche. Judas et Jésus. Et ainsi de suite. Et Moab et Israël. Les deux. Moab n'était pas une nation païenne. Non, monsieur, ils offraient le même sacrifice qu'Israël. Ils priaient le même Dieu. Exactement. Moab venait d'une des filles de Lot qui avait couché avec son père et lui avait enfanté un fils appelé Moab. Et c'est de là qu'est issue la race des Moabites qui habitaient dans le pays de Moab. Et lorsqu'ils virent Israël, leurs frères rachetés venir, ils étaient fondamentalistes. Ils étaient une grande dénomination. Mais Israël n'avait pas de dénomination. Ils habitaient simplement dans des tentes et ils allaient où ils pouvaient. Mais Moab avait les dignitaires, les rois, etc. Ils avaient aussi là-haut Balaam, un faux prophète. Ils avaient tout cela. Et pourtant, ils descendirent là-bas pour maudire leur petit frère qui était en marche vers le pays promis, allant vers sa promesse. Et Israël leur avait demandé, « Puis-je traverser ton pays? Si mes vaches boivent de l'eau, je paierai. Si elles mangent de l'herbe, je paierai. » Il répondit, « Non, tu ne feras pas de ce genre de réveil par ici. » C'est vrai. Tu ne feras pas de choses comme cela par ici. Ensuite, observez ce qu'il a fait. Il est revenu sous la forme de Jézabel. Il est descendu au moyen de ce faux prophète et a fait s'égarer les enfants de Dieu, introduisant par le mariage des femmes moabites en Israël et causant l'adultère. Et il a fait la même chose dans cet âge-ci, dans ce voyage, nous sommes maintenant en route vers le pays de la promesse. Qu'a-t-il fait? Exactement ce qu'il a fait à ce moment-là. Le faux prophète est venu appeler l'église protestante à se marier avec eux, causant des dénominations. Mais malgré tout, alléluia, le petit Israël continua d'avancer. Il marcha longtemps dans le désert, car il fallait que tous les vieux combattants y meurent, puis il est entré tout droit dans le pays promis. Observez-les alors qu'ils sont tous en armes prêts à franchir le Jourdain. Oh, j'aime cela. Et maintenant, nous allons entrer directement dans cet âge. Remarquez, nous avons découvert que ce temps a duré 3 ans et demi de la 70e semaine de Daniel. Laissez-moi vous expliquer cela un peu plus en détail maintenant. Je vois en effet quelqu'un ici qui a toujours étudié ces choses et je désire être tout à fait clair. Remarquez, lorsque les 70 semaines, lorsque Daniel a eu la vision des temps futurs et de la fin du temps des Juifs, il a dit que 70 semaines avaient été déterminées, 7 ans, et qu'au milieu de cela, eh bien le Messie serait là et qu'il serait retranché pour être un sacrifice. C'est exactement ce qui est arrivé. Alors Dieu s'est occupé des nations jusqu'à ce qu'il en eût pris un peuple pour son nom. Et aussitôt que l'Église des nations est sortie, il l'enlève. L'Église. Et lorsqu'il fait cela, la Vierge de folle, endormie, l'Église elle-même, l'épouse est montée. Et l'Église est rejetée dans les ténèbres du dehors où il y a des pleurs et des grincements de dents. C'est en ce temps-là que la tribulation tombe sur ces gens-là. Et tandis que la tribulation tombe, là viennent ces deux prophètes d'Apocalypse 11 pour leur prêcher l'Évangile. Et ils prêchent pendant 1160 jours. Vous voyez, si vous comptez au moyen du vrai calendrier, où les mois ont tous 30 jours, vous voyez, cela fait exactement la dernière partie de la 70e semaine de Daniel. Vous voyez, Dieu ne s'occupe pas d'Israël ici, certainement pas. Non, monsieur. Un frère m'a demandé il n'y a pas longtemps, un frère de l'Église, un précieux, cher frère, j'aimerais aller en Israël, je crois qu'il y a un réveil là-bas. Quelqu'un m'a dit, frère Branham, vous devriez aller en Israël maintenant même. Vous voyez, vous ne pouvez pas le faire. J'étais là et je pensais, ces Juifs, si ce Jésus ici est le Messie, qu'il nous fasse voir le signe du prophète, nous croirons nos prophètes parce que c'est ce qu'ils sont censés faire. Eh bien, je pensais, me voici, j'étais là, tout proche, j'étais au Caire, et j'avais déjà mon billet en main pour Israël. Et j'ai dit, je vais aller, s'ils le demandent, s'ils peuvent voir le signe d'un prophète. Nous verrons s'ils acceptent Christ. Louis Petrus de l'église de Stockholm leur a envoyé 1 million de Bibles, et ces Juifs rentrant au pays, vous avez vu les images, je les ai sur le film qui s'intitule « Minuit moins trois », et ces Juifs viennent de partout dans le monde et commencent à se rassembler là-bas. Après que l'Angleterre est allée là au temps du général Allenby, en Israël, vers la fin de la Première Guerre mondiale, je crois que ça se trouve là dans le deuxième volume, les Turcs se sont rendus, ils restituèrent son pays à Israël qui s'est développé et est devenu une nation. Et maintenant, c'est une nation parfaite, ayant sa propre monnaie, son drapeau, son armée et tout le reste. Et ces Juifs rentrèrent dans leur pays, dans leur patrie. La première chose, quand ils allèrent en Iran, et pour les chercher, ils dirent qu'ils désiraient les ramener en Israël, dans leur pays, la Palestine, où ils étaient censés être. Et rappelez-vous, aussi longtemps qu'Israël est hors de ce pays, elle est hors de la volonté de Dieu, comme Abraham à qui il avait été donné. Ils ne voulaient pas monter dans l'avion, car ils n'avaient jamais vu quelque chose comme cela. Mais un vieux rabbin est sorti et leur a dit, « Notre prophète nous a dit que lorsqu'Israël rentrerait au pays, ce serait sur les ailes de l'aigle. » Tous montèrent dans l'avion et s'envolèrent vers leur pays. Ils y sont maintenant travaillant à la restauration du figuier. L'ancienne étoile de David à 6 branches flotte de nouveau. Le jour des nations sont comptés, ses jours encombrés d'horreur. La période de la tribulation est proche à la porte, elle est ici même. Les sceaux sont ouverts, l'église est prête à prendre son envol dans les airs. Alors Dieu descend et retire les 144 000 dollars. Amen. Oh, c'est parfait. Vous voyez comment les sceaux font ressortir ces choses? Comment c'est ouvert? Maintenant, cette dernière période de 3 ans et demi pour le peuple, vous remarquez que c'est pendant ce temps-là que Dieu appellera ces 144 000 Juifs pendant ces derniers 3 ans et demi. Voyez, il ne s'est pas encore occupé d'eux, pas du tout. Ils n'ont pas encore eu de prophète. Ils ne croiront rien d'autre qu'un prophète. Vous ne pouvez pas les tromper. Ainsi, ils n'écouteront qu'un prophète, et c'est tout. Dieu leur avait dit au commencement, et ils s'y sont tenus. Il a dit, « Le Seigneur, votre Dieu, suscitera parmi vous un prophète comme moi. » Moïse a dit cela. Il a dit, « Vous l'écouterez, et celui qui n'écoutera pas ce prophète sera retranché du peuple. » C'est vrai. Et vous voyez, leurs yeux devaient être aveuglés, autrement ils l'auraient reconnu. Mais ayant été aveuglés, Satan a pu les atteindre et ils dirent, c'est un diseur de bonne aventure, Belzébul, que son sang soit sur nous, nous savons qu'il n'y a rien en lui. Vous voyez, et le pauvre peuple fut aveuglé. C'est la raison pour laquelle il y a eu tous ces massacres faits par Eichmann et son groupe. Ils avaient le droit d'entrer, mais leur propre père dut aveugler leurs yeux afin de pouvoir nous prendre, nous. C'est une des choses les plus pathétiques dans les Écritures. Pensez simplement à cela. Les Juifs réclamant le sang de leur propre père, leur propre Dieu suspendu là, ensanglanté. Là, ils le crucifièrent, ce que dit la Bible. Ces quatre mots sont parmi les plus glorieux. Là, Jérusalem, là, la ville la plus sainte. Ils, le peuple le plus saint du monde, l'ont crucifié, la mort la plus brutale. Lui, la personne la plus importante du monde. Pourquoi? La plus grande religion du monde, la seule vraie religion du monde, se tenait là, crucifiant le Dieu même dont leur Bible disait qu'il viendrait. Pourquoi ne l'ont-ils pas vu? La Bible nous dit que Dieu les a aveuglés afin qu'ils ne puissent pas le voir. Qui de vous peut m'accuser de péché? En d'autres termes, si je n'ai pas fait exactement ce qui avait été prédit de moi, alors dites-le-moi, le péché c'est l'incrédulité. Il fit exactement ce que Dieu lui avait ordonné, mais ils ne purent le voir. Quand vous parlez aux gens, c'est comme verser de l'eau sur les plumes d'un canard, voyez-vous ce que je veux dire? C'est pitoyable. Quand vous voyez cette nation et ce que font les gens, si empesés et religieux, mais le Saint-Esprit ne nous dit pas qu'ils seront rebelles, hautains, aimant le plaisir plus que Dieu, traîtres, accusant faussement, incontinents et méprisant ceux qui sont bons. Ils ont la forme de la piété, mais renient la puissance de l'Évangile. Il a dit, détournez-vous de tels gens. Nous avons ici ces dénominations qui tordent les choses. Ils enlèvent toute la gloire et la puissance, les attribuant uniquement au temps des apôtres, et ils mettent le reste dans le millénium. C'est comme ces hommes dont j'ai parlé auparavant. Un homme donne toujours la louange à Dieu pour ce qu'il a fait. Ils se réjouissent de ce qu'il va faire, mais ils ignorent ce qu'il est en train de faire maintenant même. C'est exactement cela. L'homme est toujours le même. Il y avait là ces Juifs qui criaient « Gloire à Dieu !» au chapitre 6 de Saint Jean. « Nos pères ont mangé la manne dans le désert. » Jésus leur répondit, « Ils sont tous morts. » Dans le désert, ils burent l'eau du rocher. Mais ensuite, il dit, « Je suis le rocher. » Il dit encore, « Je suis le pain de vie qui vient de Dieu, descendu du ciel. » L'arbre de vie dont on n'avait pas mangé là-bas. Si un homme mange de ce pain, il ne mourra pas. Je le ressusciterai au dernier jour. C'est vrai, ils ne pouvaient pas le voir. C'était le Messie même qui se tenait là, exprimant les paroles mêmes de leur cœur et toutes sortes de choses, montrant qu'il était le Messie et que le Messie devait accomplir. Mais eux restaient là, les mains derrière le dos, disant, « Non, c'est pas possible. Oh non, il n'est pas venu selon les idées reçues, voyez. Il est venu de Bethléem. Ce n'est rien qu'un enfant illégitime. C'est le diable qui agit en lui. Nous savons qu'il est fou. Il a un démon. Leurs yeux étaient aveuglés. Pourtant, ils attendent le prophète. Et ils vont le recevoir. Et ils en recevront deux. Remarquez à nouveau. Lorsque ces Juifs, je vais vous donner un autre petit symbole afin que vous réalisiez bien qu'il s'agit des Juifs maintenant, que nous sommes de l'autre côté de l'enlèvement. Regardez ce qui se passe. C'est aussi symbolisé, ne nous étendrons pas là-dessus parce que ça nous ferait sortir du sujet, c'est symbolisé par ce qui fait appeler la tribulation, les troubles de Jacob. Ces Juifs ici, remarquez, je vais quand même passer un peu de temps là-dessus. Ça me rend nerveux quand je vois que ça commence à faire tous ces détours. Remarquez, je voudrais que vous voyiez ceci. Dieu vous le montrera certainement, j'en suis sûr. Regardez, Jacob avait le droit d'aînesse. N'est-ce pas juste? Mais c'est certain qu'avec cela, c'était un petit escroc. Voyez, il trompa son père, il trompa son frère, il fit tout ça. Mais légalement, il l'avait parce qu'Ésaü lui avait vendu. Ensuite, il est allé travailler chez son beau-père, il mit de l'eau, des branches de peupliers afin que les bêtes donnent des petits achetés, il fit toutes sortes de choses semblables afin de gagner de l'argent. Vous savez tout ce qu'il a fait pour gagner de l'argent. Maintenant, regardez. Il fut rejeté par les siens. C'est un type du juif actuel. C'est un faiseur d'argent. Peu importe comment il y arrive, il va y arriver. Il va vous écorcher vif pour en obtenir. Vous savez cela. Ce n'est rien d'autre qu'un petit escroc. Voilà tout. N'essayez pas de faire affaire avec lui. Il va vous avoir. C'est juste. Pourquoi? Il doit être ainsi. C'est cette sorte d'esprit qui domine. C'est exactement pareil avec les réformateurs qui ne pouvaient pas comprendre cette parole. Parce que c'est l'esprit de l'homme qui leur avait été envoyé. C'est l'âge de l'aigle qui reçoit la parole de la révélation. Oh, tous ceux qui comprennent, levez la main. C'est bien, c'est bien. Maintenant, si vous pouvez revenir ici sous ces sceaux, lorsqu'ils sont ouverts, vous pouvez voir exactement ce que Dieu est en train de faire, ce qu'il a fait, ce qu'il va faire. C'est ici exactement, et c'est la raison pour laquelle l'homme agit de cette manière, c'est à cause de l'esprit dont il a été prédit qu'il serait sur eux dans cet âge. Ils ne pouvaient rien faire d'autre. Rien, Jean, Paul et les autres étaient dans l'âge du lion. L-I-O-N, la parole elle-même. Paul s'en tenait exactement avec cette parole, disant, « Je sais ceci, c'est qu'il s'élèvera de faux prophètes parmi vous. Ils rôderont et fabriqueront des dénominations et tout le reste parmi vous. Et ils continueront à faire cela jusqu'au dernier jour et dans ces temps horribles. Pourquoi? Il était un prophète. Cette parole tenait fermement en lui et lui montrait comment les choses arriveraient à leur achèvement bien plus tard. C'est comme ces hommes faux qui s'élèveront parmi vous, éloignant des frères qui étaient des disciples. C'est exactement cela, l'Antichrist. C'est exactement ce qu'il fit. Remarquez, qu'arrive-t-il après l'entrée des âges sombres et des tribulations? Il ne pouvait rien faire. Rome possédait le pouvoir religieux et le pouvoir politique. Il ne pouvait donc rien faire d'autre que de peiner, travailler pour subsister, de se livrer pour être sacrifié. C'était le bœuf. C'est tout ce qu'ils pouvaient faire. C'est le genre d'esprit qu'ils avaient. L'esprit de Dieu, le bœuf. Ensuite, voici les réformateurs, la tête d'un homme, la perspicacité, la sagesse, l'habileté, Martin, Luther, John Wesley, Calvin, Finney, Knox et les autres. Ils vinrent accomplir leur œuvre d'informateur. Ils vinrent faire sortir le peuple, mais ils firent demi-tour exactement comme les autres autrefois et retournèrent tout droit dans le système dénominationnel en s'y mariant. C'est exactement, c'est la Bible qui le dit. C'est une prostituée et la défie prostituée. Exactement. Et Dieu dit, je lui ai donné du temps pour se repentir, ne l'a pas fait, alors je vais la prendre, elle et ses rejetons. Et je les jetterai dans le lieu qui est le leur. Exactement. Et Dieu a dit cela dans le sceau. Et voilà où elle se trouve. Nous découvrons qu'il fait cela. Et il le fera. Et chacun d'eux est conduit dans cette direction. Mais tous ceux qui ont leur nom dans le livre de vie, Dieu les appellera et ils l'entendront. Mes brebis entendent ma voix, dit Jésus. La seule chose que nous avons à faire est de lancer un appel aux brebis. Les boucs ne l'entendront pas. Mais vous voyez, c'est l'appel des brebis. Mes brebis entendent ma voix. Pourquoi? Qu'est-ce qu'une voix? Je vais vous dire ce qu'est une voix. Une voix est un signe spirituel. Il dit à Moïse, s'ils ne veulent pas écouter la voix du premier signe, ils écouteront la voix du second signe. Mes brebis écoutent ma voix. Quand ces choses qui sont censées arriver dans les derniers jours arriveront, les brebis de Dieu le reconnaîtront. Elles reconnaîtront. Mes brebis me connaissent. Elles ne suivront pas un étranger. Elles ne suivront pas ces étrangers. Il faut que ce soit un signe confirmé. Elles le verront. Maintenant, remarquez. Jacob, où aspirait-il à retourner? Où? Dans sa patrie. Oh, c'est exactement ce qu'a fait Israël. C'est Israël. Jacob est Israël. Seul son nom a été changé, vous savez. Il alla là-bas et il prit tout l'argent qu'il avait, qu'il put obtenir, par tous les moyens, par sa parenté ou n'importe qui d'autre. Ainsi qu'il a pu l'obtenir par la tromperie, le vol, le mensonge, n'importe comment. Il l'obtint, vous voyez. C'est ce qu'il a fait. Et lorsqu'il se mit en route, pour rentrer chez lui, il avait le mal du pays dans son cœur. Mais sur le chemin du retour, il rencontra Dieu. Alors son nom fut changé. Mais en ce temps-là, il était tellement abattu parce qu'il avait peur d'Ésaü, qui était à sa poursuite. Observez l'argent. Cette affaire d'argent qu'il avait fait pour de l'argent. C'est comme les Juifs qui essayent de faire cette alliance avec Rome comme une affaire d'argent, une proposition. Remarquez, Ésaü n'avait pas besoin de son argent, ni Rome non plus. Elle a toute la richesse du monde. voyez. Ça n'a pas marché. Et nous découvrons maintenant qu'Israël, en ces temps de trouble, alors qu'il était encore Jacob, il combattit, il s'empara de quelque chose qui était réel. Un homme était descendu. Jacob le retint dans ses bras. Et il resta là. L'homme dit, je dois aller maintenant car le jour vient. Oh, se lever du jour. Il va bientôt faire jour. Mais Jacob a dit, je ne te laisserai pas. Tu ne peux simplement pas t'en aller. Je vais rester avec toi. Je voudrais qu'il y ait des choses qui soient changées ici. Ce sont ces 144 000, cette bande de gens qui ont toutes les combines pour gagner de l'argent et d'autres choses pareilles. Lorsqu'ils verront la chose véritable à saisir et qu'ils se tiendront là, Moïse et Élie, amen. Alors ils combattront avec Dieu jusqu'à ce que les 144 000 des tribus d'Israël soient appelés là. Ça se passe juste avant la période de tribulation. Oh, comme c'est merveilleux. Aussi les difficultés de Jacob. C'est alors que les 144 000 sont appelés. Les deux prédicateurs, les deux prophètes prêchent comme Jean-Baptiste. Le royaume de Dieu est proche. Israël, repens-toi. Se repentir de quoi? Repens-toi de tes péchés, de ton incrédulité, et retourne à Dieu. Maintenant, souvenons-nous de quelque chose ici. C'est grand. Phénomènes naturels sont arrivés avant, au verset 12 ici. Le soleil est devenu noir comme un sac de crin. Rappelez-vous maintenant ceci. N'arrive pas dans le temps des nations. C'est Israël. Laissez-moi vous le montrer. Maintenant, souvenez-vous, j'ai dit que c'était l'appel des 144 000, voyez. Ce temps, maintenant, ce sont les tribulations qui doivent le faire. Et ce passage dit ce qui se passe dans cette tribulation. Prenons Exode 10, de 21 à 23. Et observons cela. L'Exode, bien sûr, décrit la sortie d'Israël, comment elle a été retirée d'Égypte. Et Exode 10, 21-23. Je suis tellement excité, je pousse des cris quand je note ces versets. Il m'arrive quelquefois de les mélanger. Très bien. Exode 10, 21-23. Très bien. Allons-y. 21 et 23. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main vers le ciel et qu'il y ait des ténèbres sur le pays d'Égypte, des ténèbres qu'on puisse toucher. Moïse étendit la main vers le ciel et il y eut d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte pendant 3 jours. On ne se voyait pas les uns les autres et personne ne se levait de sa place pendant 3 jours. Mais il y avait de la lumière dans les lieux où habitaient tous les enfants d'Israël. Remarquez que c'est exactement pareil à l'autre passage, et le soleil devint noir comme un sac de poils, vous voyez? Ce sont les mêmes choses, ces phénomènes de la nature. Qu'est-ce que c'était? Lorsque de telles choses apparaissent dans la nature, cela veut dire que Dieu appelle Israël. Dieu appelle Israël à sortir. Maintenant, le soleil noir. Il était sur le point de délivrer Israël, là. Très bien. Et de le retirer d'entre les mains de son ennemi, qui était l'Égypte en ce temps-là. Maintenant, le voici, qui les retire de la main de Rome, avec qui ils avaient fait leur alliance. C'est la même chose qui arrive. Ce sont les plaies. Le temps vient où ces plaies tomberont et tourmenteront ce groupe des nations. Si nous avions le temps, je pourrais vous montrer ce qui va arriver à l'Église des nations. La Bible dit que le dragon, Satan, était en colère contre la femme, les Juifs, Israël, et qu'il lança de l'eau de sa bouche des multitudes de peuples qui s'en allèrent faire la guerre au reste de la semence de la femme. Apocalypse 13. Vous voyez cela? Nous l'avons. Et c'est quand Rome envoie son armée après le reste de la semence de la femme. Maintenant, regardez. La première fois qu'ils sont entre ses mains, quand il les a délivrés, le soleil est devenu noir comme un sac de crin. Maintenant, c'est la seconde fois, à la fin de la période de la tribulation. Si nous avions le temps, nous pourrions lire dans Daniel 12, dans Daniel 12e verset, 12e chapitre plutôt, Daniel a dit, quiconque sera trouvé inscrit dans le livre sera délivré. Rappelez-vous maintenant que Daniel parle de cette période où cette chose doit arriver, où Israël doit être délivré à la fin de la 70e semaine. C'est alors qu'ils sont censés être délivrés. Lisons dans Daniel 12, juste une minute. En ce temps-là, se lèvera Michaël, le grand prince, le défenseur des enfants de ton peuple. Vous voyez, ce sont les Juifs. Et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. Compare exactement à ce que Jésus a dit dans Matthieu 24. Il y aura un temps de détresse tel qu'il n'y en a jamais eu depuis qu'il y a des nations. Regardez le sixième sceau. Vous voyez? C'est la même chose, un temps de détresse. Remarquez. En ce temps-là, ton peuple maintenant, dans la dernière partie de la 70e semaine, ils seront délivrés, tous ceux qui seront trouvés, écrits dans le livre, les prédestinés, voyons, qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau, seront délivrés en ce temps-là. Et plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte éternelle. Alors, les sages brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme des étoiles à perpétuité. Ensuite, il dit à Daniel de fermer le livre, car il resterait en repos dans son héritage jusqu'à ce temps-là. Ainsi, vous voyez, ça ne fait aucune différence que vous soyez vivant ou mort, vous ressusciterez de toute manière. Vous voyez, mourir, ce n'est rien pour un chrétien. D'ailleurs, il ne meurt pas de toute façon. Daniel 12 dit que tous ceux qui seraient trouvés inscrits dans le livre seraient délivrés. Ici, Dieu est sur le point de délivrer son second fils, Israël, après les tribulations. Vous voyez? Israël est son fils, vous savez cela. Israël est le fils de Dieu. C'est pourquoi il va le délivrer ici, dans la période de tribulation, exactement comme il l'a fait là-bas en Égypte. Maintenant, arrêtons-nous de nouveau ici pour recevoir quelque chose montrant qu'il est conduit à la maison. Observons ici ces deux prophètes. Voyez ce qu'ils vont faire maintenant, comme Moïse et les autres. Lisons le troisième verset du chapitre 11 de l'Apocalypse. Et je donnerai puissance à mes deux témoins, et ils prophétiseront 1260 jours vêtus de sac. Ceux-ci sont les deux oliviers, souvenez-vous, Zorobabel et ceux qui voulaient reconstruire le temple, et les deux lampes qui se tiennent, les deux chandeliers devant le Seigneur de la terre. Et si quelqu'un veut leur nuire, le feu sort de leur bouche. Vous souvenez qu'une épée sort de la bouche de Christ, c'est la parole, et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur nuire, il faut qu'il soit ainsi mis à mort. Nous connaissons au chapitre 19 le feu de la venue de Christ, où une épée qui est la parole sort de sa bouche. C'est juste, c'est la parole. Oh, si vous pouviez recevoir maintenant ce matériel pour ce saut de demain soir, c'est avec la parole que Dieu détruit son ennemi. Regardez ici, quand ces prophètes prophétisent, si quelqu'un les maltraite ou leur fait du mal, du feu sort de leur bouche. Le feu du Saint-Esprit, la parole. La parole est Dieu. La parole est du feu. La parole est l'Esprit. Elle sort de leur bouche. Regardez Moïse. Voyons ce qui sort de sa bouche. Voyez comment est l'état dans lequel se trouvait Israël en Égypte. Les Égyptiens maltraitaient les Juifs. Ils ne voulaient pas le laisser aller. Pharaon ne voulait pas. Dieu mit la parole dans la bouche de Moïse. C'était les pensées de Dieu allant dans le cœur de Moïse. Il alla là-bas pour les exprimer et elles devinrent paroles. Il étendit la main et il dit, qu'il y ait des mouches. Et il y eut des mouches. Et si quelqu'un veut leur nuire, le feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Voilà. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent et cela arrive. Amen. Et si quelqu'un leur fait du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Oh frère, Dieu entre en scène ici. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie durant les jours de leur prophétie. Élie, savait faire cela puisqu'il avait fait auparavant. Amen. Moïse savait faire cela puisqu'il avait fait auparavant. C'est pour cette raison qu'il fut regardé. Amen. Je pourrais dire quelque chose de terriblement bon ici, mais je pense qu'il serait préférable que je le garde jusqu'à demain soir. Et ils ont le pouvoir sur les eaux pour les changer en sang, et celui de frapper la terre de plaies aussi souvent qu'ils le veulent. Qu'est-ce que c'est? Ce n'est que la parole qui peut amener ces choses. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent à la nature. Mais voici, ce sont eux qui apportent ce sixième sceau. Ils le découvrent et l'ouvrent. C'est la puissance de Dieu qui interrompt le cours de la nature. Vous voyez, le sixième sceau, dans son ensemble, est une interruption de la nature. Saisissez-vous maintenant? Voilà notre sceau. Qui fait cela? Ce sont les prophètes qui sont de l'autre côté de l'enlèvement. Avec la puissance de Dieu, la parole de Dieu, ils condamnent simplement la nature. Ils peuvent envoyer des tremblements de terre, changer la lune en sang, faire descendre le soleil ou n'importe quoi d'autre à leur ordre. Amen. Nous y voilà. Nous y voilà. Voyez? Vous voyez comment les sceaux ont été ouverts là-bas dans le message de l'Église, comment ils ont montré les martyrs. Et maintenant, voici ces deux prophètes qui se tiennent là avec la parole de Dieu pour faire à la nature tout ce qu'ils veulent. Ils ébranlent la terre. Ça nous montre exactement qui le fait. C'est Moïse et Élie, parce que le ministère est de nouveau réalisé dans la personne de ces deux-là, de ces deux hommes. Oh là là, le voyez-vous maintenant? Voyez-vous ce qu'est le sixième sceau? Ce sont ces prophètes. Maintenant, remarquez, ne laissez pas cela vous étouffer, mais observez ce qui a ouvert ce sceau, des prophètes. Vous y voilà. Oh, nous vivons ici, dans le jour de l'aigle, et c'est parmi nous maintenant. Ils ont ouvert ce sixième sceau. Ils avaient le pouvoir de le faire. Amen. Voici ce sixième sceau qui s'ouvre, vous voyez. Maintenant, retournons en arrière là où Jésus a dit que cela arriverait. Nous retrouvons bien arrière dans l'Ancien Testament, dans Ézéchiel, les prophètes des anciens temps ont dit que cela arriverait. Et ici, le sixième sceau est ouvert et ils disent, eh bien, c'est une chose mystérieuse. Qu'est-ce qui a fait cela? Voici le secret, les prophètes. Parce que la Bible le dit, ils peuvent faire ce qu'ils veulent à la nature. Et ils font la même chose qu'ils ont déjà faite. Parce qu'ils savent comment faire. Amen. Gloire à Dieu. Quand j'ai vu cela, je me suis simplement levé, je me suis mis à marcher de long en large. Je pensais, merci Père Céleste. Le voilà, c'est ça. Ils ont ouvert ce sixième sceau. Amen. Observez-les. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche, c'est la parole. Le Saint-Esprit est venu sur les apôtres, voyez, le feu sorti de leur bouche. Maintenant remarquez, dans Apocalypse 19, nous voyons la même chose. Une grande épée sort de sa bouche, la parole. Voyez-vous cela, Christ qui vient, et il abat ses ennemis avec cela. Maintenant, il est en route. Observez-le maintenant. Très bien. Ces deux prophètes ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne pleuve pas pendant les jours de leur prophétie. Oh, ça, c'est une interruption de la nature. Maintenant, combien de temps cet homme, Élie, ferma-t-il les cieux? Vous y voilà. Exactement. Combien de temps dure la dernière partie de la 70e semaine de Daniel? Vous y voilà. Exactement. Que fit Moïse? Il changea les eaux en sang et fit toutes ces sortes de miracles, exactement ce qui avait été prédit ici dans le sixième sceau. Et les voici maintenant dans Apocalypse 11, faisant exactement la même chose. Amen. Il y a trois endroits différents dans les Écritures qui relient tout cela ensemble. C'est l'ouverture du sixième sceau. Gloire. Maintenant, remarquez, ceux-ci ont le pouvoir de fermer les cieux pendant la durée de leur prophétie, afin qu'ils ne pleuvent point. Ils ont le pouvoir sur les eaux pour les changer en sang et de frapper la terre de plaies aussi souvent qu'ils le veulent. Oh, mes frères, vous y voilà. Maintenant, étudions ces plaies. La nature tout entière est interrompue dans ce sixième sceau quand il est ouvert. C'est exactement ce qui est arrivé. Maintenant, regardez. Voyez ici, Dieu est sur le point de délivrer son fils Israël de la même manière, par la même sorte de tribulation qu'il employait autrefois. Il fit descendre la Moïse et délivra Israël. N'est-ce pas vrai? Et maintenant, il fait exactement la même chose. Il envoya Élie à Akab et 7000 sont sortis. Il les envoie de nouveau maintenant dans le temps de la tribulation et il appelle les 144 000. Ainsi, vous remarquez qu'entre le sixième et le septième sceau, chapitre 7 de l'Apocalypse, mathématiquement met les choses en place. Tout comme l'Amérique, c'est le nombre 13, 13 États, 13 étoiles, 13 colonies, 13 bandes, tout est fait par 13, 13, et l'appareil là, dans le 13e chapitre de l'Apocalypse. C'est vrai, voyez-vous, son nombre est 13. C'est une femme. Et voyons, quand il fut sur le point de délivrer son fils unique, celui qui l'avait engendré, c'était son fils unique, Matthieu 27, voyons ce qu'il a dit là. Matthieu, chapitre 27. Maintenant, souvenez-vous, son fils avait été frappé, tourmenté, on s'était moqué de lui, et maintenant, il fut suspendu à une croix vendredi saint à 3 heures de l'après-midi, juste sur le point d'arriver, Matthieu 27, verset 45, je pense. Depuis la sixième heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la neuvième heure. Maintenant, voyons ce qu'il fait plus tard ici. Et je vis, lorsqu'il ouvrit le sixième sceau, il se fit un grand tremblement de terre, et le soleil devint noir comme un sac de poils, et la lune devint comme du sang. Noirceur, ténèbres. En Égypte, de la noirceur, les ténèbres. Dieu livra Jésus à la croix juste avant de l'élever par la résurrection. Premièrement, il y eut l'obscurité. Le soleil descendit au milieu du jour et les étoiles ne donnèrent point leur lumière. Deux jours plus tard, il le ressuscita en grand triomphe. Après que le soleil, la lune et les étoiles se furent cachés et que toutes ces choses se furent produites, en Égypte, il délivra Israël et le conduisit au pays promis. Ici, nous sommes dans la période de tribulation et c'est là que se tiennent les deux prophètes qui ont le contrôle de la parole que Dieu leur donne. Ils ne peuvent parler que lorsque Dieu leur donne la parole. Maintenant, ce ne sont pas des dieux. Temporairement, ce sont des dieux amateurs parce que Jésus a dit qu'ils l'étaient. Vous appelez Dieu à qui vient la parole de Dieu. Mais regardez, ce sont ceux à qui Dieu apporte la parole et quand il parle, cela arrive. C'est tout. Et les voici, ayant reçu la commission de Dieu de frapper la terre quand ils le veulent. Voilà là. Ils peuvent fermer le ciel. Et il le fait. Qu'est-ce qui se passe? Il est sur le point d'ôter les 144 000 en vue de la rédemption. Les appelés par le livre de la rédemption. Et tout cela se passe sous le sceau de la rédemption, dans le sixième sceau. C'est cela, mes chers amis. C'est ce sixième sceau qui était si mystérieux. Il nous reste encore 10 minutes. Voyons encore une petite chose. J'ai encore 2 ou 3 pages. Je pense que sur ce seul sujet, il me reste encore 15 pages que je pourrais étudier. Oh, il y a tant sur ce sujet. Je pourrais continuer à aller d'un passage à l'autre, mais j'ai peur de vous embrouiller en me dispersant trop. Je ne pourrais pas faire tenir tout cela ensemble comme je le devrais. Prenons Ésaïe. Ésaïe le prophète a vu ce sixième sceau ouvert et en a parlé. Et il s'agit de savoir si c'est important ou non. Oui. Eh bien, le plan de la rédemption tout entier se trouve dans ces sceaux, le livre tout entier. Maintenant, vous vous rappelez, nous avons vu que Jésus a vu cela. Jésus l'a vu. Et nous découvrons, maintenant que d'autres l'ont vu aussi, nous avons découvert cela, présenté en type dans Jacob. Nous l'avons découvert en type dans l'Égypte. Nous le voyons en type à la croix. Revenons à Ésaïe. J'ai encore noté le nom d'une quantité d'autres prophètes, mais j'aime bien ce livre d'Ésaïe. Revenons à Ésaïe, chapitre 13. Ésaïe, c'est une Bible complète en soi, le saviez-vous? Ésaïe commence avec la création, ensuite vers le milieu, il introduit Jean-Baptiste, et à la fin, il décrit le millénium. Et il y a 66 livres dans la Bible, 66 chapitres dans le livre d'Ésaïe. C'est une encyclopédie complète en elle-même. 13e chapitre maintenant d'Ésaïe. Commençons ici au verset 6. Hurlez, car le jour de l'Éternel est proche. Il viendra comme une destruction du Tout-Puissant. Observez ce sixième sceau qui s'ouvre ici. 713 ans avant la venue de Christ. Il est venu il y a bientôt 2000 ans. Il y a donc environ 2700 ans qu'Ésaïe a vu ce sceau. Très bien. C'est pourquoi toutes les mains deviendront lâches et tout cœur d'homme se fondra. Que dit Jésus? Parce que l'iniquité accroîtra la charité du plus grand nombre, se refroidira, et les hommes rendront l'âme de terreur. Ce sera comme le mugissement de la mer, voyez-vous, les hommes rendront l'âme. Et ils seront terrifiés, les détresses et les douleurs s'empareront d'eux. Ils seront dans les douleurs, comme une femme qui est en travail. Ils seront stupéfaits les uns les autres, leurs visages seront de flammes. Remarquez ici, leurs visages remplis de honte. Nous y reviendrons dans une minute. Voici le jour de l'Éternel vient, cruel, avec fureur et ardeur de colère, pour réduire la terre en désolation, et il en exterminera les pécheurs. L'agneau, c'est tout cela, voyez-vous, car les étoiles des cieux et leurs constellations ne feront pas briller leur lumière. Le soleil sera obscur à son lever, et la lune ne fera pas luire sa clarté. Et je punirai le monde pour sa malice et les méchants pour leur iniquité. Je n'arrive pas à le dire. Et je ferai cesser l'orgueil des arrogants et j'abattrai la hauteur des hommes fiers. Voyez, c'est exactement cela. Ésaïe a vu la même chose que ce dont Jésus avait parlé et que les sept sceaux révèlent quand il purifie le pays par les tribulations. C'est la période de tribulation, le sixième sceau. Oui, il était un prophète, et la parole de Dieu lui fut révélée. C'était il y a 2700 ans. Véritablement, je voudrais dire ceci, le monde entier, comme Ésaïe a dit, c'est une femme en travail. Toute la création est en travail. Pourquoi y a-t-il tous ces gémissements et ce travail sur la terre? Comme une femme qui est sur le point d'être mère, la terre et même la nature. Cette cité ici, prenons notre propre cité. Des bistrots, la prostitution, la souillure, l'écume comme n'importe quelle autre cité. Eh bien, je pense que Dieu préférait la voir comme il était il y a 1000 ans. Quand l'Ohio coulait dans cette vallée, il n'y avait pas d'inondation ni d'eau stagnante. Il n'y avait pas de péché dans la vallée. Les bisons parcouraient ces régions, et les chasseurs Cherokee les chassaient et vivaient à leur aise. Il n'y avait pas de problème, mais l'homme est arrivé. Et voilà où le péché entre. Quand l'homme commença à se multiplier sur la face de la terre, le péché et la violence s'installèrent. C'est vrai. C'est toujours l'homme. Eh bien, je pense que c'est une disgrâce. Je me tenais l'autre jour dans l'état où je demeure actuellement, à l'Arizona. Lorsque j'étais enfant, je lisais ces histoires au sujet de Geronimo, Cochise et tous ces anciens Apaches auxquels j'ai prêché. Ce sont des gens très bien. Des gens parmi les plus braves, ces Indiens Apaches que vous puissiez rencontrer. Je suis allé à Tombstone. Là, ils ont leurs vieilles reliques de la guerre. Et vous savez qu'on a toujours classé Geronimo comme un renégat. Mais pour moi, je le considère comme un Américain pur sang, absolument. Il ne faisait que combattre pour ses droits comme n'importe qui le ferait. Il ne voulait pas cette pollution dans son pays. Voyez ce qu'il en est maintenant. Lorsque l'homme blanc est venu, il a fait de ses enfants et de ses filles des prostituées et tout le reste. Les blancs, c'est de la racaille. Les Indiens étaient Préservateur économe, s'il tuait un bison, la tribu tout entière se partageait tout et n'en laissait rien. On utilisait sa peau pour faire des vêtements, des tentes et toutes sortes de choses. Mais l'homme blanc vient et tire dessus comme sur une cible. Eh bien, c'est une telle disgrâce. J'ai lu un article de journal qui parlait de l'Afrique, ce pays si riche en bêtes sauvages, où des gens comme Arthur Godfrey et d'autres vont tirer les éléphants et d'autres bêtes du haut d'hélicoptères. On voyait une image d'une vieille femelle éléphant en train de mourir. Des sortes de larmes coulaient de ses yeux. Deux grands mâles essayaient de la soutenir. Eh bien, c'est un péché! Ce n'est pas du sport! En allant chasser dans les bois où je vais d'habitude, j'ai vu des chasseurs blancs tuer un daim et enlever juste un jeune animal et j'ai vu tuer 8 ou 10 biches en les laissant là, alors que leur fond courait là autour en cherchant leur maman. Voyez ce que c'est ça? Un esprit sportif? À mon avis, c'est un pur meurtre cruel. J'espère que tant que je vivrai, le Canada n'aura jamais de route afin d'empêcher l'entrée de ces renégats américains. C'est vrai. Ce sont les pires chasseurs que j'ai jamais vus de ma vie. Bien sûr, ils ne sont pas tous comme cela. Il y a quelques vrais hommes, mais vous n'en trouverez pas 1 sur 1000. Ils tirent sur tout ce qu'ils voient. Ce sont des meurtriers. C'est vrai. Sans cœur. Ils tirent hors de saison. J'étais dans l'Alaska, je partais avec un guide. Je me suis dit, je suis allé là-bas et j'ai vu des troupeaux entiers d'élans massacrés à la mitrailleuse avec des balles de calibre 50. Ce sont ces pilotes américains en Alaska qui les avaient mitraillés du haut de leurs avions. Tout un troupeau d'élans. C'est un pur meurtre. Ils savaient très bien que s'ils tuaient les bisons, les Indiens mourraient de faim. C'est la raison pour laquelle Cochise a dû se rendre. Tous ses princes, ses enfants, tout son peuple mourraient de faim. Buffalo Bill et tous les autres tuaient jusqu'à 50 bisons dans l'après-midi. Ils savaient que s'ils les exterminaient, ils se débarrasseraient des Indiens. Oh là là! Quelle tâche sur notre drapeau d'avoir traité ainsi ces Indiens! Vous y voilà. Mais rappelez-vous que la Bible a dit que l'heure est venue où Dieu détruira ceux qui détruisent la terre et le monde entier. Voyez ces vallées. J'étais l'autre jour à Phoenix, regardant dans la vallée. Je suis monté sur la South Mountain avec ma femme et nous étions assis là. Et je disais, n'est-ce pas terrible? Elle me dit, terrible, que veux-tu dire? Le péché, combien d'adultères, d'ivrognes et de ceux qui prennent le nom du Seigneur en vain parmi ces 140-150 peut-être 200 000 personnes dans cette vallée. Et je dis, il y a 500 ou 1000 ans, il n'y avait que des cactus et des buissons. Les coyotes vivaient près de la rivière. Et je dis encore, c'est comme cela que Dieu a fait cette région. Mais l'homme est venu, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a saturé la terre de ses souillures. Les rues sont pleines de fiel. Les égouts et les rivières sont pollués par toutes sortes de souillures. Eh bien, il vaut mieux ne pas boire de cette eau. Vous pourriez attraper n'importe quoi. Vous voyez ce que c'est? Et ce n'est pas seulement ici, mais dans le monde entier. L'ensemble est pollué, et le monde, la nature. Que Dieu ait pitié. Le monde entier est dans les douleurs de l'enfantement. Le monde fait des efforts et en travail, comme l'a dit Isaïe. Que se passe-t-il? Il essaie de donner naissance à un nouveau monde pour le millénium purifié du péché. Il essaie de donner naissance à un nouveau monde, à un nouveau peuple qui ne péchera plus, ne polluera plus. C'est vrai. Il est en travail. C'est la raison pour laquelle nous sommes en travail, que Christ est en travail pour produire l'épouse. Tout est en travail et gémit. Voyez, il y a quelque chose qui est sur le point d'arriver. C'est cette sixième plaie qui fait venir cela. Frère, il y aura de grands tremblements de terre, les étoiles tomberont, les volcans feront éruption et la terre se renouvellera. Une nouvelle lave surgira du centre de la terre et se répandra partout pendant que cette terre continuera à tourner dans l'espace. Et je vous dis un matin que quand Jésus reviendrait sur la terre avec son épouse, il y aurait là un paradis de Dieu. Oh là là! Ces vieux guerriers de la bataille descendront alors avec leurs amis et tous ceux qui leur sont chers, les cantiques rempliront les airs avec l'armée des anges. Tu as bien travaillé, bon et fidèle serviteur. Entre dans la joie du Seigneur qui a été préparée pour toi, semblable à celle que tu aurais eu là-bas avant qu'Ève ne commence à se vautrer dans le grand bal du péché. Oui, le sixième sceau va faire quelque chose. Oui, monsieur, le monde entier gémit et souffre pour cet âge du millénium. Maintenant, le monde actuel est tellement imprégné de souillure, comme j'ai prêché il n'y a pas longtemps, je crois que c'est au tabernacle, le monde qui se désagrège. Regardez ce qui se désagrège dans le monde. Plus rien ne tient, tout se désagrège. Il doit se désagréger. Regardez, sa charpente elle-même. Laissez-moi vous montrer la raison pour laquelle la charpente de ce monde, le fer et le cuivre et tous les matériaux de la terre ont été arrachés de sa charpente pour la guerre et l'industrie, au point où il est presque prêt. Avant l'autre jour, nous n'avions jamais eu de tremblement de terre dans cette partie du pays. Il y en a eu l'autre jour, Saint-Louis. Oui. La terre devient si mince, ils en ont tout extrait. Voyez, sa politique est tellement polluée qu'il n'y a pratiquement aucun système honnête en elle. Son système, sa moralité est si basse qu'elle n'en a plus. C'est tout, voyez-vous, c'est sûr. Sa religion est gangrénée. Oui, monsieur. L'heure est bientôt venue où le sixième sceau doit s'ouvrir. Et quand il s'ouvrira, oh là là, c'est la fin. L'épouse est partie. La reine est allée prendre sa place. Elle est en train de se marier maintenant au roi, tandis que ces choses se passent. Et le reste d'Israël est scellé et prêt à s'en aller. Et alors, la nature laisse aller. Oh, quel temps! Remarquez, le dernier verset de l'ouverture du sixième sceau. Voyez ceux qui se sont moqués à la prédication de la parole, de la parole confirmée du Dieu vivant, quand ces prophètes qui se tenaient là avaient fait des miracles, obscurci le soleil et tout le reste, tout au long des âges. Ils crient aux montagnes de tomber sur eux pour les cacher de cette parole dont ils se sont moqués, parce que maintenant, ils peuvent le voir venir. Cachez-nous de la colère de l'agneau. Il est la parole, voyez. Ils s'étaient moqués de la parole, et voici la parole incarnée. Ils s'en sont moqués, en ont ri. Ils se sont moqués d'eux, et la parole incarnée est apparue. Pourquoi ne se sont-ils pas repentis? Ils ne le pouvaient pas. Ils étaient allés trop loin. C'est pourquoi ils savaient que le châtiment, ils en ont entendu parler, ils se sont assis dans des réunions comme celle-ci, et ils savaient que ces choses, les choses prédites par les prophètes, les concernaient directement. La chose qu'ils ont rejetée, ils ont rejeté la grâce pour la dernière fois. Et si vous rejetez la grâce, il ne reste que le jugement. Quand vous rejetez la grâce, pensez-y seulement. C'est là qu'ils étaient. Ils n'avaient aucun lieu où aller, aucune retraite. Et la Bible dit ici qu'ils disent aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous et tenez-nous cachés de devant la face et la colère de l'agneau. » Ils ont essayé de se repentir, mais l'agneau était venu réclamer les siens. Ils crièrent aux rochers et aux montagnes, ils prièrent, mais leur prière était trop tard. Mes frères et sœurs, la bonté et la grâce de Dieu s'étendent aux nations, tandis qu'Israël était aveuglé pour cela il y a presque 2000 ans, afin de nous donner une occasion de nous repentir. Avez-vous rejeté cette grâce, cette miséricorde? L'avez-vous rejeté? Qui êtes-vous de toute manière? D'où venez-vous? Et où allez-vous? Vous ne pouvez pas le demander à votre médecin, vous ne pouvez le demander à personne au monde. Il n'y a aucun livre que vous puissiez lire qui puisse vous dire qui vous êtes, d'où vous venez et où vous allez, à part ce livre. Mais maintenant, vous savez que le sang de l'agneau doit agir à votre place, sinon vous voyez vers quoi vous allez. Alors si Dieu a fait cela pour vous, la moindre chose que nous puissions faire, c'est d'accepter ce qu'il a fait. C'est tout ce qu'il nous demande de faire. Sur la base de ceci, si je vais plus loin, je devrais entrer dans le sujet de cette plaie, mais c'est le sujet de demain soir. Alors je ne peux pas le faire, je ne peux pas aller plus loin. J'ai fait une croix ici, stop, pour m'arrêter. Il faut que j'attende jusqu'à demain. Maintenant, inclinons la tête, juste une minute. Si vous n'avez pas encore, mes précieux amis, si vous n'avez pas accepté l'amour de ce Dieu dont je parle, écoutez attentivement maintenant. Si vous n'avez pas accepté son amour et sa miséricorde, vous devrez supporter son jugement et sa colère. Vous êtes ce soir dans la même position qu'Adam et Ève au Jardin d'Éden. Vous avez un droit. Vous avez le libre arbitre. Vous pouvez aller à l'arbre de vie ou vous pouvez prendre le plan du jugement. Mais aujourd'hui, tandis que vous êtes raisonnable et dans votre bon sens, et que vous êtes en assez bonne santé pour vous lever et l'accepter, pourquoi ne le feriez-vous pas si vous ne l'avez pas encore fait? Y a-t-il encore ici des gens qui ne l'ont pas fait? Si c'est le cas, voulez-vous simplement lever la main et dire, « Frère Branham, maintenant je veux le faire. Je ne veux pas que ces choses m'arrivent. Que Dieu vous bénisse. » Ce ne sont pas mes idées à ce sujet. Ce n'est pas ce que j'ai pensé. Tout ce que je viens de vous dire, cela ne vient pas du tout de moi. Que le Seigneur m'aide, le Saint-Esprit le sait. Attendez jusqu'à demain soir, je vais vous montrer un mystère qui s'est prolongé tout au long de cette rencontre ici. Je doute beaucoup que vous ayez vu ce qui s'est passé. C'est quelque chose qui était exposé ici de droit devant vous. J'ai attendu chaque soir que quelqu'un se lève et dise « Je le vois ». Ne le rejetez pas, mes amis. Je vous demande ceci. Si vous n'êtes pas un chrétien, si vous n'êtes pas sous le sang, si vous n'êtes pas né de nouveau et rempli du Saint-Esprit, si vous n'avez encore jamais fait une confession publique de Jésus-Christ, baptisé en son nom pour témoigner de sa mort, ensevelissement, résurrection, l'eau est prête. Ils attendent. Des robes de baptême sont fournies ici et tout est prêt. Christ se tient prêt, les bras étendus pour vous recevoir. D'ici une heure, cette miséricorde pourrait ne plus s'étendre à vous. Vous pourriez la rejeter pour la dernière fois, et alors elle ne pourrait plus jamais toucher de nouveau votre cœur. Pourquoi ne le faites-vous pas pendant que vous le pouvez? Je sais que la coutume est d'amener les gens jusqu'à l'autel. C'est ce que nous faisons et c'est tout à fait bien. Mais aujourd'hui, il y a tellement de monde. Il y en a juste qu'autour de l'autel, nous ne pourrions pas le faire. Mais j'aimerais dire ceci. Au jour des apôtres, il est dit que tous ceux qui crurent furent baptisés. Si vous pouvez simplement, profondément dans votre cœur, voilà tout ce qu'il faut. Ce n'est pas une émotion, bien que des émotions l'accompagnent. C'est comme lorsque je dis, fumer ou boire ne sont pas des péchés, ce sont des attributs du péché. Cela montre que vous ne croyez pas. Mais quand vous croyez véritablement dans votre cœur, sachant que sur la base de ce que vous dites, vous l'acceptez de tout votre cœur, quelque chose va arriver juste là. Ça va arriver. Alors vous pourrez vous tenir comme témoin de ce que quelque chose est arrivé. Alors entrez dans l'eau et dites, je veux montrer à l'Assemblée, je veux le prouver, je veux rendre mon témoignage que je veux prendre ma place avec l'épouse. Je me tiens ici maintenant pour être baptisé. Je sais qu'il y a ce soir un grand nombre de femmes très bien dans le monde, mais il y en a une que je désire voir très particulièrement. C'est celle qui parmi elles est ma femme. Elle rentre à la maison avec moi. Elle n'était pas ma femme au commencement. Mais comment est-elle devenue? En prenant mon nom. Il vient, il y a une quantité de femmes d'église dans le monde, mais il vient pour sa femme. Elle est appelée par son nom. Alors tous ceux qui sont en Christ, Dieu les prendra avec lui. Comment entrons-nous en lui? Par un seul esprit, nous sommes tous baptisés dans un seul corps. Pendant que nous prions, priez-vous aussi. Que vous soyez ici ou à l'extérieur, il y a beaucoup de monde dans les différentes salles et à l'extérieur, dans la rue, nous ne pouvons pas vous appeler à l'autel, mais faites de votre cœur un autel. Et juste dans votre cœur, dites, « Seigneur Jésus, je crois cela. Je suis resté dehors dans l'air de la nuit, j'ai étouffé de chaleur ici dans cette petite salle. Je suis assis ici parmi ces gens. Je ne peux pas me permettre de manquer cela. » Comme je vous l'ai dit hier soir, que le Seigneur me vienne en aide. Le Seigneur sait que je dis la vérité, je ne mens pas, comme dit Paul. Dans cette vision, quoi que c'était, je me suis tenu là, je regardais et je touchais ces gens qui étaient venus C'était aussi réel que ma présence ici ce soir. Ne le manquez pas, mon pauvre frère, ma pauvre sœur. Ne le faites pas. Je sais que vous avez entendu prêcher, vous avez entendu ceci, cela, toutes sortes d'histoires. Mais écoutez, je sais que c'est la vérité. Je ne peux pas le dire plus clairement. Ne le manquez pas. Tout ceci est pour vous. Maintenant, prions. Seigneur Jésus, voici devant moi une boîte pleine de mouchoirs qui représente les malades. Alors que je prie sur eux, en imposant les mains, comme dit la Bible, ils prenaient les linges des mouchoirs qui avaient touché le corps de Paul et des esprits impurs sortaient des gens. De grands signes étaient manifestés parce qu'ils avaient vu Paul. Ils savaient que l'Esprit de Dieu était en lui. Ils savaient qu'il était un homme étrange et que les choses dont il parlait au sujet de la parole, il prenait cette vieille parole écrite en hébreu et il l'amenait à la vie, la plaçait en Christ. Ils savaient que Dieu était dans cet homme. Ils avaient vu Dieu accomplir des œuvres étranges et puissantes par lui, prédisant des choses qui arrivaient de la manière qu'il avait dite. Ils savaient qu'il était serviteur de Dieu. Seigneur, je te prie d'honorer ces gens pour le respect qu'ils ont de la parole et de les guérir pour l'amour de Jésus. Et ici dans l'assemblée, Seigneur, il y en a qui sont assis comme ceux qui écoutaient l'apôtre Pierre le jour de la Pentecôte et qui l'entendirent prendre la parole, la sonder et dire, Joël a dit que dans les derniers jours, ces choses arriveraient et que ceci et cela. Et les 3000 crurent cela et furent baptisés. Et Père, aujourd'hui, nous nous tenons ici par ta grâce. Ce n'est pas parce que ce sont des gens spéciaux, mais c'est parce que, tout comme au temps du lion, du bœuf, de l'homme, maintenant c'est le temps de l'aigle, c'est l'onction pour cette heure, c'est le temps dans lequel nous vivons, c'est l'action du Saint-Esprit pour ce temps particulier, afin de prouver que Jésus n'est pas mort et qu'il accomplit les choses qu'il a dites qu'il ferait juste avant que les lumières du soir ne s'éteignent. Et nous l'avons vu accomplir ses œuvres tout au long de la route. Nous l'avons vu descendre et la recherche scientifique a pris la photographie de cette glorieuse colonne de feu qui conduisit les enfants d'Israël, qui rencontra Paul sur la route. Et nous savons que cette même colonne de feu qui conduisit Moïse là-bas dans le désert, c'est par cette même colonne de feu qu'il écrivit plusieurs livres de la Bible, car il était oint avec la parole. La même colonne de feu est venue sur Paul sur le chemin de Damas, et il a écrit de nombreux livres de la Bible, qui est appelée la parole de Dieu. Et maintenant, Seigneur, la même colonne de feu, par l'évidence de la preuve de la parole, et par la recherche scientifique, nous la voyons ici, révéler la parole du Seigneur. Oh Dieu, que les gens se réveillent rapidement. Oui, rapidement. Ceux dont le nom est inscrit dans le livre de vie puissent voir cette lumière briller sur leur chemin, qu'ils puissent la voir comme cette femme de mauvaise vie près du puits ce jour-là. Elle reconnut rapidement et elle savait que c'était les Écritures. Et maintenant, Père, je te prie que tous ceux qui te recevront aujourd'hui dans leur cœur décident une fois pour toutes qu'ils en ont fini avec le péché, qu'ils se lèvent et se préparent maintenant pour la confession publique du baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ, pour la rémission de leurs péchés, montrant ainsi qu'ils croient que Dieu leur a pardonné et qu'ils prennent sur eux le nom de Jésus-Christ. Alors, Père, verse sur eux l'huile du Saint-Esprit sur eux, qu'ils puissent être placés dans le service du Seigneur Dieu, qu'ils puissent être les ouvriers dans ce dernier jour mauvais, car nous réalisons qu'il ne reste que peu de temps et que l'Église pourrait s'en aller à tout moment. L'agneau peut à tout moment quitter le sanctuaire là-haut, le trône du sacrifice, et descendre du trône de Dieu où se trouve le sacrifice, et alors, c'est terminé. Il n'y a plus d'espoir pour le monde. C'en est fait de lui. Alors il entrera dans les frustrations, des grands spasmes, des tremblements de terre, une grande secousse comme lors de la résurrection, comme Christ est sorti de la tombe, lorsque les saints ressusciteront, la même chose arrivera. Ça pourrait arriver à n'importe quelle minute, Seigneur. Nous sommes attentifs à l'arrivée de ce jour heureux. Prends maintenant tes enfants dans tes bras, Père. Prends tes petits agneaux sur ton sein. Accorde-le, Seigneur, et nourris-les de ta parole, jusqu'à ce qu'ils soient assez forts pour le service. Nous les remettons entre tes mains, Seigneur. Réponds à cette prière. Tu as dit dans Marc au chapitre 11, quand vous priez, lorsque vous êtes debout en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. En mettant tout mon cœur en celui qui nous a révélé ces choses tout au long des années et ces sceaux, cette dernière semaine, je te crois, Seigneur Dieu, que l'heure est là, qu'elle est proche maintenant, que ta venue est plus proche que nous ne le pensions réellement. S'il te plaît, veuille répondre à ma prière et que chaque enfant de Dieu appelé qui se trouve ici à portée de voix ou qui entendra ces bandes, à ce moment-là, je le réclame pour le royaume de Dieu sur la base de savoir que ceci est la parole qui est révélée. Que la lumière du soir brille, Père. Je te les confie au nom de Jésus. Amen. Maintenant, à l'intérieur ou à l'extérieur, tous ceux qui ont cru et qui n'ont encore jamais fait la confession publique, qu'ils en ont terminé avec le péché, et si vous désirez la miséricorde de Dieu, que vous avez accepté Jésus-Christ, le bassin est là. Ils seront prêts à baptiser quiconque désire être baptisé, aujourd'hui, demain, ou en ce moment même, à n'importe quel moment. Avez-vous apprécié ce sixième sceau? Voyez-vous maintenant où il est ouvert? Avez-vous cru? Il est dit, qui a cru à ce que nous a, à notre rapport, et à qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé? Si vous croyez le rapport, alors le bras du Seigneur vous est révélé, le bras, la parole de Dieu est révélée. Le Seigneur voulant maintenant, demain matin, j'essaierai de mieux répondre aux questions, je passerai peut-être le reste de la nuit, ou en tout cas la plus grande partie, à prier à ce sujet. Je ne dors pas plus d'une à trois heures par nuit. La nuit passée, je ne suis pas allé au lit avant une heure, et à trois heures, j'étais debout pour étudier. Vous voyez, je devrais répondre de cela. C'est vrai, nous sommes trop près de la fin pour nous permettre quoi que ce soit. La moindre insouciance, la moindre incertitude, nous arrêter à mi-chemin. Il faut que je voie, premièrement, alors ça doit être dans la parole. Et jusqu'à présent, par la grâce de Dieu, cela correspond parfaitement. J'ai étudié cela d'un bout à l'autre, vous le savez. Tout cela s'accorde parfaitement. Cela doit être, ainsi dit le Seigneur. Parce que ce n'est pas seulement ce que je dis, selon ma propre connaissance, mais la parole du Seigneur est ainsi dit le Seigneur. Et il y a ici la parole prenant ce qu'il m'a donné, fusionnant les choses ensemble, leur montrant de sorte que vous savez vous-même que c'est ainsi dit le Seigneur. Ici la parole le dit. Et ensuite, il y a la révélation qu'il me donne, qui est contraire à ce que chacun de nous avait pensé jusque maintenant, ce qui était contraire à ce que j'avais pensé, car je n'étais jamais entré là-dedans comme cela. Mais maintenant, nous découvrons que cela s'emboîte parfaitement. Et qu'est-ce que c'est? C'est ainsi dit le Seigneur. C'est exactement. Il y avait une place qui avait été ouverte, qui était restée ainsi jusqu'à cette heure. Ensuite, le Seigneur est venu mettre la chose à sa place, de cette manière. Et vous voyez, c'est ainsi. C'est le Seigneur. Oh, je l'aime. Je l'aime de tout mon cœur. Rappelez-vous que nous ne pourrons pas aller jusqu'à l'autel. Plusieurs ont levé la main. Mais voyez, c'est une affaire individuelle avec vous. Ça dépend de ce que vous voulez faire. L'heure est tellement imminente que vous devriez vous presser autant que possible. Ne pas avoir à être tiré. Pressez-vous simplement. Essayez d'entrer. Seigneur, ne me laisse pas dehors. Ne me laisse pas dehors. Les portes se ferment. Si je peux simplement entrer, voyez, Dieu fermera la porte un jour. Il l'a fait au jour de Noé. Et il frappera cette porte, n'est-ce pas vrai? Maintenant, rappelez-vous que la Bible dit qu'à la septième veille, n'est-ce pas vrai? Quelques-uns se sont endormis à la première veille, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, mais à la septième veille, Une proclamation a retenti un cri. Voici l'époux. Sortez à sa rencontre. Les vierges folles dirent, « Dites, j'aimerais bien avoir un peu de cette huile maintenant. » L'épouse dit, « J'en ai juste assez pour moi-même. J'en ai juste assez. Si vous en voulez, allez, priez. Ne voyez-vous pas les vierges folles maintenant? Voyez les épiscopaux presbytériens, luthériens et les autres, essayant. Et le problème avec eux, c'est qu'au lieu d'essayer de recevoir le Saint-Esprit, ils essayent de parler en langue. Et un grand nombre de tous ceux-là qui parlent en langue ont honte de venir à cette école afin qu'on prie pour eux. De venir à cette église, ils désirent que je vienne chez eux pour prier pour eux. Vous appelez ça le Saint-Esprit, c'est de parler en langue sans le Saint-Esprit. Je crois que le Saint-Esprit parle en langue, vous savez que je le crois. Mais il y a aussi une contrefaçon, certainement. Ce sont les fruits de l'Esprit qui prouvent ce que c'est. Ce sont les fruits d'un arbre qui prouvent de quelle sorte d'arbre il s'agit, pas l'écorce, le fruit. Maintenant, remarquez. Alors, quand elles viennent, c'est la dernière heure. Et lorsqu'elles entrent, elles disent, « Eh bien, je crois que je l'ai maintenant. Je crois que je l'ai. Oui, nous sommes en train de l'obtenir. » Je ferais mieux de ne pas dire cela, parce que ça pourrait causer de la confusion. Lorsque je disais l'autre jour, comment l'enlèvement viendrait. Si vous dites que vous voulez l'accepter, c'est très bien. Regardez, ça dépend de vous. Quand les vierges folles, voyez, pensèrent qu'elle pourrait revenir parce qu'on avait prié pour elle, l'épouse était partie. Cela passa, elle ne le savait pas. Elle n'en sut rien. Ce fut comme un voleur dans la nuit. Alors elles se mirent à frapper à la porte. Et qu'arriva-t-il? Que se passa-t-il? Elles furent jetées dans la période de tribulation. La Bible dit qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. N'est-ce pas vrai? Quand est-ce que ce sera, frère et sœur? Je ne sais pas. Il pourrait n'y avoir que moi ici, voyez. Ma pensée, voyez. Je crois que c'est si proche. Chaque jour, je désire. J'essaie de marcher aussi légèrement que je peux. Vous savez, il s'est passé quelque chose aujourd'hui et j'ai vu apparaître quelque chose. J'en ai eu le souffle coupé. Il était là, se tenant là. Il y avait cette lumière juste à cet endroit. Je sais que c'est la vérité. Je pensais, oh Dieu, je ne pourrais jamais dire cela. Je ne peux pas le dire, je ne peux pas. Je suis sorti de la chambre. J'allais faire quelques pas dehors. Je pensais, oh là là, que puis-je faire? Voyez, je dois aller à la pêche ou quelque chose. Seigneur, je n'arrive pas à te le dire. Nous avons passé de bons moments, n'est-ce pas? Loué soit le Seigneur. Nous vivons dans un temps formidable, voyez, car mon cœur est inondé de bonheur et de joie. Mais quand je pense à ce monde et aux milliers de personnes que je connais qui sont perdues, cela jette une ombre noire. Alors, votre cœur saigne. Que peut-on faire? Que pouvez-vous faire? Vous pouvez simplement sentir le Saint-Esprit crier dans votre cœur. Qu'est-ce qui a dû se passer en notre Seigneur quand il regardait Jérusalem, son propre peuple, et disait, « Jérusalem, Jérusalem, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins, et vous ne l'avez pas voulu? » Vous sentez le Saint-Esprit dire, « Combien de fois ai-je voulu vous rassembler, mais vous ne le voulez pas? » Nous en sommes là. Au point où quelque chose va se passer, les amis. Quoi que ce soit, Dieu le sait. Personne ne sait quand cela arrivera. C'est un secret. Personne ne sait quand cela arrivera. Mais Jésus nous a dit, quand vous verrez ces choses, toutes ces choses, nous avons pu voir tout cela en comparant le sixième sceau avec ce que Jésus dit dans Matthieu 24. Rappelez-vous ce qu'il a dit. Quand vous verrez ces choses commencer à arriver, c'est que le temps est proche, à la porte. Voyez le verset suivant, immédiatement, verset 30, 31 et 32, 33, il dit, « Il enverra ses anges aux quatre coins des cieux, aux quatre vents, pour rassembler ses élus. » N'est-ce pas vrai? Et il dit, maintenant, il s'est arrêté là. Vous vous rappelez qu'il s'est arrêté juste là. Il n'est jamais allé plus loin après le sixième saut. Il n'a jamais rien dit au sujet du septième. Il a parlé du premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième. Mais il s'est arrêté là. Il n'a jamais rien mentionné. Maintenant, regardez ici, apprenez d'une parabole. Ensuite, il commence les paraboles. Il dit, ces choses arriveront. Il répond à leurs trois questions. Quels seront ces signes? Quel sera le signe de ta venue? Quel sera le signe de la fin du monde? Et ce sixième sceau était la fin du monde. Et lorsque le septième ange sonna de la trompette, il leva les mains et jura par celui qui vit au siècle des siècles qu'il n'y aurait plus de temps. La terre donne naissance à une nouvelle terre. Tout est terminé. Et ici, nous sommes là, juste ici, à la porte. Oh, j'en tremble. Et que dois-je faire, Seigneur? Que puis-je faire d'autre? Et alors, quand je pense que je verrai cet endroit et toutes ces précieuses personnes, je me regardais moi-même, je pensais, oh Dieu, ils ne peuvent pas manquer cela. Je devrais les pousser. Je devrais aller dans l'auditoire pour aller les chercher, les pousser. Mais on ne peut pas faire cela. Aucun homme ne peut venir à moins que mon Père ne l'attire. Mais nous avons une consolation. Tous ceux que le Père m'a donnés viendront. Mais le reste dépend des organisations, vous voyez. La bête séduisit tous ceux, tous les habitants de la terre, dont les noms n'étaient pas inscrits dans le livre de vie de l'agneau immolé dès la fondation du monde. Ainsi, vous voyez, c'est triste. La seule chose que vous puissiez faire, c'est de vous en tenir exactement avec la parole, d'être attentif à ce qu'elle dit, voyez, et de le faire. Quoi qu'ils disent de faire, il faut le faire. Regardez là et dites, eh bien alors ils font ceci, cela. Vous ne réalisez pas l'attention que cela donne. Je voudrais encore dire ceci. Il y a beaucoup de gens qui disent, Frère Branham, avec un type de ministère, il faut que je fasse attention parce qu'il y a des gens qui prennent ces bandes et démolissent les prédications en piquant des choses ci et là. Vous voyez, Frère Branham, j'aimerais avoir un ministère. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Honnêtement, vous ne savez pas ce qui accompagne un tel ministère, frères et sœurs. Et la responsabilité, quand vous avez des gens qui s'accrochent à ce que vous dites, souvenez-vous, si vous leur enseignez des choses fausses, Dieu redemandera leur sang d'entre vos mains. Pensez à cela. C'est une chose terrible. Ainsi, soyez gentils. Aimez Jésus de tout votre cœur. Soyez simple. N'essayez jamais de vous imaginer quoi que ce soit. Soyez simple devant Dieu. Car plus vous essayez de vous imaginer, plus vous vous éloignez de lui. Croyez-le simplement. Dites, quand viendra-t-il? S'il vient aujourd'hui, très bien. S'il vient dans 20 ans, c'est toujours très bien. Je continue simplement à le suivre comme je le fais maintenant. Seigneur, si tu peux m'utiliser, où que ce soit, me voici, Seigneur. Si c'est dans 100 ans, si mes arrière-arrière-arrière-petits-enfants vivent pour le jour de ta venue, Seigneur, je ne sais pas quand ce sera. Alors, fais que je marche droit aujourd'hui avec toi, Seigneur, que je marche simplement avec toi, parce que je me réveillerai en ce jour-là exactement comme si je n'avais fait qu'un petit somme quelque part. Oh, arrivez là-bas dans ce glorieux palais de l'au-delà, ce royaume de Dieu, là où tous les vieux seront jeunes, où les robes blanches sont déjà préparées, là les hommes et les femmes changés, dans la beauté, la stature de beaux jeunes hommes et de jeunes femmes gracieuses. Ils se tiendront dans la beauté, la stature de jeunes hommes et femmes, ne pouvant plus jamais vieillir, plus jamais pécher, ne pouvant plus jamais agir par jalousie ou haine ou quoi que ce soit. Oh là là, je pense que les bandes sont terminées maintenant. Je voudrais encore vous parler pendant 3 ou 4 minutes. Est-ce d'accord? Je voudrais vous dire quelque chose de personnel. Parce que demain, comme ce sera quelque chose de tellement extraordinaire, je pense qu'il vaut mieux le dire maintenant. C'est justement pour nous ici. Vous savez, j'ai une femme que j'aime, c'est Meda. Et je ne voulais même pas l'épouser à cause de l'amour que j'avais pour ma première épouse. Et quels que soient les sentiments que j'avais pour elle, je ne l'aurais jamais épousée si Dieu ne m'avait pas dit de le faire. Vous connaissez cette histoire, comment elle est allée prier et comment je l'ai prié. Alors il m'a dit exactement quoi faire, comment il m'a dit de l'épouser, à quel moment. C'est une femme charmante et elle prie pour moi ce soir. Ainsi maintenant, il est 8 heures à la maison, elle est probablement en train de prier. Maintenant, remarquez. Un jour, elle m'a dit, Bill, elle a dit, j'aimerais te poser une question au sujet du ciel. Je lui ai dit, très bien, Meda, qu'est-ce que c'est? Elle m'a dit, tu sais que je t'aime. Je lui ai dit, oui. C'est juste après que ce soit arrivé. Elle m'a dit, tu sais que Hope t'aimait aussi. Je lui ai dit, oui. Elle m'a dit, mais je ne pense pas que je serai jalouse. Mais Hope l'était. Et elle dit, lorsque nous irons au ciel, et que tu dis que tu l'as vue là-haut, je dis oui, je l'ai vue. Je l'ai vue deux fois. Elle est là. Elle attend ma venue. Comme Sharon, je l'ai vue, comme je te vois. Je l'ai vue là-haut. Et alors elle dit, quand nous arriverons là-haut, laquelle des deux sera ta femme? Et je lui dis, les deux. En fait, aucune. Et pourtant, vous le serez toutes les deux. Elle me dit, je ne peux pas comprendre. J'ai dit, chérie, assieds-toi et laisse-moi t'expliquer quelque chose. J'ai dit, je sais que tu m'aimes et tu sais combien je t'aime dans le respect et l'honneur. Prenons un exemple. Que penserais-tu si je mettais mon plus beau costume et que je descends en ville et que là, je rencontre une prostituée, une fille vraiment jolie, qui vient de se jeter à mon cou en disant, « Oh, frère Branham, combien je t'aime !» commençant à me serrer dans ses bras. « Qu'en penserais-tu ?» Elle dit, « Je ne pense pas que j'aimerais ça. » Et j'ai dit, « Je veux te demander quelque chose. S'il fallait en arriver là, qui aimerais-tu le plus, moi ou le Seigneur Jésus ?» Nous parlions juste comme ça en famille. Et elle dit, « Le Seigneur Jésus. » Oui, Bill, quel que soit l'amour que j'ai pour toi, je t'abandonnerai toi plutôt que l'abandonner lui. Et j'ai dit, « Merci, chérie, je suis heureux de te l'entendre dire maintenant. » Mais qu'en serait-il de cette même femme venant vers Jésus qui se jetait à son cou disant, « Jésus, je t'aime. » Que penserais-tu ? Eh bien, j'apprécierais cela. Vous voyez, il y a un changement de l'amour philéo à l'amour agapao. C'est un amour plus élevé. Et il n'y a plus de mari et de femme qui élèvent des enfants. Tout cela est parti. Les glandes sexuelles, mâles, femelles, tout cela, il n'y a plus rien de tout cela. Il n'y a plus de glandes sexuelles. Plus du tout, voyez. La raison pour laquelle elles avaient été mises en vous était parce qu'il fallait peupler la terre, voyez-vous. Mais là-haut, il n'y en aura plus. Il n'y aura plus de glandes mâles ou femelles. Mais la stature, la manière de Dieu, c'était l'exacte vérité. Mais nous serons véritablement authentiques. Il n'y aura plus de filio du tout. Tout sera agapao. C'est pourquoi celle qui était une épouse ne sera rien de plus que quelque chose de charmant qui est à vous, vous appartenez l'un à l'autre. Là, l'état de mari n'existe plus, voyez-vous. La partie filio n'est plus là du tout. Vous voyez, il ne peut plus rien y avoir de semblable à de la jalousie. Il n'y a plus aucune raison d'être jaloux. Il n'y aura rien de semblable là. Vous ne connaîtrez plus jamais ces choses-là. Il ne vivra plus là que d'aimables jeunes hommes et jeunes femmes. Après cela, elle me répondit, « Je vois maintenant, Bill. Oui, je vais encore vous dire une petite chose qui est arrivée. C'était un rêve, car je dormais. Je n'ai jamais raconté cela en public auparavant. J'en ai parlé à quelques personnes, mais jamais en public auparavant, que je sache. Environ un mois après cela, j'ai eu un songe, que j'étais debout, et j'observais le temps glorieux, pas le jugement maintenant. Je ne crois pas que l'Église, je veux dire l'épouse, vienne jamais en jugement. Mais j'étais là lorsque les couronnes furent données. Et le grand trône glorieux était dressé là, et Jésus et l'ange qui tient le registre, et tous les autres se tenaient là. Et il y avait des degrés qui descendaient dans cette direction-ci. Ils étaient comme de l'ivoire blanc, ils descendaient en cercle comme un panorama. Ici, toute cette foule qui se tenait là pouvait voir ce qui se passait. Je me tenais quelque part en arrière sur un des côtés. Il ne me serait jamais venu à l'esprit que j'allais monter ces degrés. Je me tenais là. Et je voyais l'ange qui tenait le registre appeler un certain nom, un nom que je reconnaissais. Je regardais, et là-bas, tout au fond, je voyais venir le frère ou la sœur montant là comme ceci, et l'ange qui tient le registre se tenait à côté de Christ. Ce n'était qu'un songe. Et je regardais, et leur nom était inscrit là. Il avait été trouvé dans le livre de vie. Alors il regardait et disait, « Tu as bien travaillé, mon bon et fidèle serviteur. Entre maintenant. » Et je regardais en arrière vers l'endroit où ils allaient. Il y avait un monde nouveau et plein de joie. Il disait, « Entre dans la joie du Seigneur qui est à toi depuis la fondation du monde. » Et oh, je pensais, ils passent par là et vont à la rencontre les uns des autres, se réjouissant simplement, franchissant les montagnes, traversant les endroits glorieux. Je pensais, oh, n'est-ce pas merveilleux? Alléluia, gloire à Dieu. Et je pouvais entendre un autre nom. Et je disais, oh, je le connais, je le connais. Et le voilà qui passait. Je l'observais, qui montrait, entre dans la joie du Seigneur, mon bon. Oh, je disais, oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et puis, comme s'il disait, Orman Neville, voyez. Et c'était le vieux frère Neville. Il était là, et le voici, qui sortit de la foule et monta. Et j'ai entendu le Seigneur dire, « Entre dans la joie du Seigneur qui a été préparée pour toi, dès avant la fondation du monde. » entre. Et voici que le frère Neville est changé et commence à se diriger là-bas en poussant des cris de joie. Oh mes frères, je me mis à crier, gloire à Dieu. Je me tenais là tout seul et je passais mon merveilleux à regarder entre mes frères. Et puis l'ange qui tenait le registre redressa et il appela William Branham. Je n'aurais jamais pensé qu'il faudrait que j'aille là. Et j'étais effrayé. Je pensais, oh là là, faudra-t-il que je fasse cela? Alors je m'avançais et tout le monde m'encourageait en disant, bonjour frère Branham, que Dieu te bénisse frère Branham. Il m'encourageait tandis que je traversais une grande foule de gens. Il me tendait la main en disant, que Dieu vous bénisse, que Dieu te bénisse frère. Je m'avançais en disant, merci, merci, merci. Comme lorsque je sortais d'une réunion, vous savez, et que j'allais devoir monter ces grands et glorieux degrés d'ivoire, comme je commençais à traverser la foule, je me suis arrêté, je regardais sa face en pensant, je viens de regarder depuis ici, je m'arrêtais, et je me tenais comme ceci, je sentis quelque chose se glisser sous mon bras. C'était le bras de quelqu'un d'autre. Je me tournais, voilà, c'était Hope. Avec ses grands yeux noirs et ses longs cheveux foncés, lui descendant le long du dos, il était vêtu d'une robe blanche, longue, il me regardait ainsi. Je dis, Hope, je sentis quelque chose toucher mon autre bras. Et là, c'était Meda. Ses yeux sombres regardaient en haut, ses longs cheveux noirs descendaient sur sa robe blanche. Et je dis, Meda, elles se regardèrent l'une l'autre, vous savez, comme ceci. Je les ai pris toutes les deux dans mes bras, et nous continuons à m'avancer. Je me suis réveillé. Et j'ai été m'asseoir sur une chaise. J'ai commencé à pleurer, vous savez. Je pensais, oh Dieu, j'espère que ça se passera ainsi. Toutes deux me furent associées dans la vie, élevèrent des enfants et tout le reste. Et nous voici qui entrons dans ce nouveau monde. Oh, mes frères, où il y a la perfection et tout le reste. Eh bien, ce sera quelque chose de merveilleux. Ne le manquez pas. Ne le manquez pas. Par la grâce de Dieu, faites tout ce que vous pouvez. Et alors, ce sera à Dieu de prendre soin du reste. C'est pourquoi... Chantons encore une fois de tout notre cœur. Levons nos mains vers Dieu. Elle n'espérait pas vivre jusqu'à la fin de la réunion. Et la voici maintenant, les deux mains levées et louant Dieu. C'est la raison pour laquelle je me suis attardé aussi longtemps. Je vais vous dire ce que j'étais en train de faire. Pendant que je parlais de Meda et des autres, j'observais cette lumière décrivant les cercles en arrière et en avant. Je pensais, ça y est. Oh, n'est-il pas merveilleux? Oh. Maintenant, de tout notre cœur. Pensez simplement à sa bonté, à sa miséricorde.
Coming of the Lord through that.